grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour ! Heureux de vous retrouver ! Quelle ambiance ! Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui ne dépasse pas les 30 dans Paris, ni sur sa balance, Ariel Dombal. Une grosse tête qui aura mis 20 ans pour passer d'union libre à son mariage en juin, Christine Bravo.
Bonjour.
Une grosse tête dont le convoi de la liberté est parti d'Europe 1 pour arriver à RTL, Julie Leclerc. Une des rares grosses têtes à être plus à l'aise au Palais de l'Élysée que dans le grand studio de RTL, Gaëlle Tchekaloff.
Bonjour.
Une grosse tête qui, avec ses saillies verbales, fait beaucoup pour la reproduction du rire, Laurent Baffy.
Bonjour.
Et une grosse tête qui, ce soir, va jouer contre Mbappé, Messi et Benzema. Hein? Puisque, ah bah oui, puisque les bronzés font du ski, passent sur TF1 face au match.
Ah, non.
Gérard Jugnot. Vous saviez pas ?
Non, je savais pas.
Ah bah, faut faire fort quand même. Hein. Et c'est sur Canal Plus le match.
Ah oui ?
Il y a les bronzés font du ski. Bon, il y a peu de gens qui ont vu les bronzés font du ski.
Bah, la première fois, ça passe. Bah, récemment, j'ai fait du ski et je me suis cassé la gueule.
Ah bah, oui. Vous n'avez pas progressé depuis le film, alors ?
Non, énormément.
Mais... regardez, vous avez, il a un corset, notre pauvre Gérard.
Comme une tortue.
Et il a un tuteur sur le sexe.
Non, mais la ceinture de contention lui va plutôt bien.
Oui, oui.
C'est vrai, si elle était noire, ça pourrait faire Toréador, ce serait assez mignon.
Torero.
Oui, Toréador, ça n'existe pas, c'était un néologisme de Prosper Mérimée pour Carmen.
Qu'est-ce qu'elle a, maîtresse Capello ?
Toréador, c'est non. Non, ça n'existe
Alexia,
pas.
Dis, ferme
non.
Ta gueule.
On dit torero, matador,
torero. Oui, mais c'est bien qu'Ariel Dombal est une diva, donc pour elle, c'est un toréador. D'ailleurs, elle va nous interpréter Carmen de Bizet.
Oh là là.
L'amour, 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 l'amour,
l'amour.
Laurent, j'ai vu sa voiture avec son pauvre chauffeur qui attend devant.
C'est vrai.
Et dans sa voiture, à l'arrière, elle a un quatuor à cordes, c'est dur à dire. Et il y a un type qui joue de la viole de grande. Elle n'a pas d'autoradio, Ariel.
BH a été généreux pour la Saint-Valentin, Ariel.
Un baiser.
Oh, un baiser, on va dire donc.
Oui.
C'est que le 14 février. Vous, Gaëlle Tchekaloff.
Moi, j'ai eu un bouquet en avance dimanche. Et puis, comme il était comme mon amoureux et dans l'océan Indien en ce moment, il est parti hier. Il m'a laissé un poème.
Qu'est-ce qu'il fait dans l'océan Indien ?
Il est réfugié.
Il est parti travailler.
C'est un navigateur, votre amoureux ?
Non, c'est un migrant.
Vous avez un marin comme Christine Bravo ?
Non, non, c'est pas un marin. C'est un homme de presse.
Et t'as des mythes chez toi ?
Un homme de presse ?
Oui.
Qu'est-ce que vous appelez
Mais j'en dis pas plus, c'est un homme de presse.
Un journaliste, alors ?
Non, plus.
C'est celui qui presse.
Alors, qu'est-ce qu'il fait sur l'océan ? Il raconte.
Oh, bah, il a un yacht, c'est Bolloré. Et vous, Christine, alors ?
Elle a rien eu comme moi.
Moi, j'ai eu un cadeau de Saint-Valentin. Je suis sûre qu'aucune femme au monde n'a eu ça.
Ah, c'est quoi?
On va deviner.
Sextoy?
Un grille-pain.
Non.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Il est arrivé tout content. Il y avait un cadeau sur la table. Et alors, moi, j'arrive, je suis contente. Je commence à dépiauter. Je vois écrit Moulinex. J'ouvre. Je dis, oh, c'est super. Il est là, il est là. Il m'a dit, jure-moi que tu le diras pas à RTL.
Jean-Phi a eu une machine hot dog, il est très content.
Qu'est-ce qu'on offre à un garçon?
Moi, je veux pas
pour la Saint-Valentin.
À un garçon, on offre un grille-pain et lui, au moins, il fait pas la gueule. Vous nous avez dit que lui, vous avez offert un grille-pain, mais ça marche dans les deux sens, là, Saint-Valentin. Vous lui avez offert quoi, vous ?
Une demi-baguette.
Ah ben vous avez... Ah ben vous avez raison, mais je croyais que c'était que l'homme qui offrait
la
femme.
Pas du tout.
Ah bon ?
C'est dans les deux sens.
Ah oui. Non. Ça
en tout cas chez nous, oui.
Oh mon Dieu !
Une première citation pour Carole Zilina qui habite Bondy en Seine-Saint-Denis. Très simple, hein, vous allez voir, c'est signé. Qui a dit un carré est un triangle qui a réussi ou une circonférence qui a mal tourné.
Pierre Dac.
Évidemment, c'est un grand classique. Pour Joël Clouzet, qui habite Quimper, qui a dit « Il était si con que lorsqu'il disait quelque chose d'intelligent, il se retournait pour voir si c'était pas un autre. »
Coluche.
Non.
Des
Sim,
proches.
Jean-Yann. Non. C'est quelqu'un qu'on cite plus rarement, mais quand même qui revient régulièrement dans nos citations. Oui, il est mort.
Il est très mort.
Ah, il est mort. Et là, si je vous donnais la date de sa disparition tout de suite.
Volinsky.
Bonne réponse de Laurent Baffy. Pour Tristan Monteil, qui habite Saleil dans les Pyrénées-Orientales, qui a dit « On devrait interdire l'automobile pour que tout le monde puisse boire. »
Jean-Louis Borloo ?
Ah ben voilà, ouais. Elle, la politique tout de suite. Non, c'est pas Borloo.
Péroni ? C'était une grosse tête ?
Non, je crois qu'il a dû participer, mais alors vraiment, dans les années 80, au début de...
Jean Carmet.
Audiard.
Pas Audiard, mais un...
Janson.
Non, un de ses collègues dialoguistes.
Et Blier ?
Non.
Boudard ?
Alphonse Boudard, bonne réponse de Gérard Jugnot. Une citation pour Farida Mérez, qui habite Truye, dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « Le Covid, c'est formidable pour une fois que les Chinois arrivent nous exporter un truc qui dure. »
Oh là là. Christine Lagarde.
C'est nouveau, ça.
Ah oui, c'est...
Ça peut pas être Sacha Guitry.
Sacha Guitry.
Timsit.
Pas Timsit.
Un humoriste.
Mais c'est effectivement...
Gad Elmaleh.
Un humoriste vivant, et c'est dans le JDD que j'ai trouvé, d'ailleurs, cette phrase dimanche dernier.
Nicolas Bedos,
non.
Proust.
Gaspard Proust, bonne réponse de Laurent Baffy. Une question pour Michel Chabanol, qui habite Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Ah. C'est la japonaise Tanaka, de son nom, je vais même vous donner son petit prénom, si vous voulez, Kane Tanaka. C'est cette japonaise qui a failli porter la flamme olympique au JO de Tokyo en 2021, mais en raison de la pandémie, elle n'a pas pu le faire. Mais c'est pas la seule raison, la pandémie. Pour quelle autre raison Kane Tanaka n'a pas porté la flamme olympique?
Elle était enceinte?
Non.
Elle a caché le fait qu'elle était contagieuse?
Non, elle n'était pas contagieuse.
Elle était inflammable?
C'était la personne la plus âgée. C'était une femme qui était très vieille. Je crois que c'était la personne qui était la plus âgée du monde.
C'est la doyenne du monde. Bonne réponse de Christine Bravo.
Je me souviens.
Ah, hey, Laurent, cette info était valable il y a deux semaines. C'est joli maintenant.
Ben non, justement, on a une Française qui se fait griller à quelques mois par la japonaise.
Ben à cause de la flamme olympique.
Non, mais c'est vrai que c'était une drôle d'idée de vouloir faire porter la flamme olympique par une femme de 118 ans, hein, quand même. Elle a 110.
Ah bah oui. Génial.
118 ans. On appelle 118. Ça une super centenaire, d'ailleurs. J'ignorais le terme. On dit même plus centenaire à ce niveau-là. On dit super centenaire. Et c'est vrai qu'elle bat de quelques mois notre Française Sœur André, que vous avez peut-être vu dans
Pauvre, elle est aveugle. Elle est dans une chaise d'infirme.
Ah bah oui, c'est vrai qu'elle est aveugle. Ouais,
de toute façon, il n'y a qu'un seul âge, c'est vivant.
Comment ça ?
Il n'y a qu'un seul âge dans la vie, c'est vivant.
C'est parce que vous n'avez pas vu Sœur André que vous dites ça.
Non, mais peut-être qu'elle avait la gueule de bois, Laurent, parce que moi, je l'ai vu mixer au Papagayo il y a deux semaines, elle était en pleine forme.
Ah non, mais elle a 118 depuis dimanche, notre doyenne. C'est la femme la plus âgée de France, battue de 13 mois par la japonaise, et c'est vrai que Sœur André, de son vrai nom Lucille Randon, c'est son nom de jeune fille au départ, enfin Lucide c'était il y a quelques années maintenant, on préfère l'appeler Sœur André. Et alors le secret, c'est ça moi qui m'amuse toujours,
le verre de Porto.
Toujours le verre de Porto.
C'est toujours ça, même Jeanne Calment disait ça.
À chaque fois c'est le verre de Porto, dites donc.
Mais elle est morte.
Et pourtant j'ai jamais vu une concierge centenaire.
Il n'est pas là, Toen.
Ça en fait quand même deux à battre, hein, Julie.
Ouais, elle a surtout...
Je m'y attelle.
Elle a surtout des migraines terribles quand elle est à ses règles. C'est horrible.
Oh. Non, la pauvre sœur André, écoutez.
Mais c'est une sœur.
Oui, c'est une sœur. Elle est rentrée dans les ordres un peu tardivement, hein, d'ailleurs.
Ah, c'est ça qui conserve.
Elle en a bien profité, puis à 110 ans, elle s'est dit, tiens... Moi, je voudrais pas atteindre... Vous aimeriez, vous, atteindre 118
ah,
ans
oui, ah oui, ah oui.
Bah, bon. Ariel, il reste
mais
qu'un
si,
jour. Hein.
Qui ne rêve pas à l'immortalité? Moi, je veux 1000 ans.
Ah oui, oui. Ça, je peux vous emmener le week-end prochain, si vous voulez. Une autre question. Une question musicale, cette fois. Écoutez bien cette musique. Une musique dans l'actualité, bien sûr.
C'est la musique de...
D'un alors, film
alors, eh ben c'est les patineurs.
Alors, parfait.
Oui. Ah oui.
Ça, c'est la première...
Papatakis, Papatakis.
Le ciel et la... l'amour, la mort...
Gabriel Fauré.
Voilà.
C'est Fauré, oui.
Alors, écoutez, vous avez toutes les réponses d'un coup. Presque, en tout cas, effectivement, si on peut réécouter, c'est la musique de sur l'amour... laquelle nos patineurs français ont effectivement patiné et gagné une médaille d'or.
Ouais, Papadakis et...
Gabriela Papadakis ouais. Et Guillaume Cizeron. Mais cette musique, certes, elle est de Gabriel Fauré.
Oui.
Bravo Julie, mais comment ça s'appelle?
L'amour, la mort, le...
Non.
Ah, en tout cas, ça donne la patate. Hein. Ouais. Ça donne envie de se faire couler un bain chaud et de s'ouvrir les veines.
Ouais, ouais.
Ah, mais
c'est une pavane?
Non, c'est un titre, hein, cette œuvre.
Oui. Ce n'est pas Prélude de l'après-midi d'un sonate. Faune.
Comment vous dites?
Non, non. Prélude de l'après-midi d'un faune.
Non, non, ça c'était BHL hier.
Et surtout, c'est Debussy.
Non, c'est un air très mélancolique, hein,
oui,
écoutez.
Oui, oui, oui. Claire de lune.
Non, Claire de lune, non.
Retire ton doigt que je pète.
Oh, monsieur, ma fille.
Mais t'es pas bien.
Je propose des trucs.
Ah, dès qu'on monte un peu le niveau, hein.
Est-ce que c'est peut-être...
C'est pas pavane pour un défunt.
Non.
C'est peut-être une partie du Requiem de Fauré.
Non, non plus.
Ils l'ont dit.
Sonate.
Ça s'appelle, il y a un mot hein, pour ça. Hein.
Ouais. Un mot de
Menuet.
Non, menuet, non plus.
Une toccata.
Une toccata, non. Poème lyrique exprimant une plainte douloureuse.
La distance, non.
Des sentiments mélancoliques, écoutez.
C'est beau.
Les humeurs.
Les nostalgies.
La complainte.
Non.
Pas de radio concurrente, Julie.
Nostalgie.
Oui.
Le motet.
Qu'est-ce que vous dites, vous?
Le motet.
Non.
Un bourdon. Le bourdon.
Tu peux mettre plus fort qu'on danse?
Bah oui, ils l'ont fait, en tout cas.
C'est beau, c'est beau. Pierre, c'est tercé à l'intérieur.
Non.
La balade, non.
La promenade.
C'est dans tous les journaux aujourd'hui.
Mais oui.
Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron danser, patiner sur...
La complainte.
La complainte de Fauré, non.
Pavane.
Pavane, non.
J'ai regardé en plus.
La musique de merde.
Oh non, écoutez, c'est un grand compositeur français,
beau,
un organiste.
Et là, c'est le live.
Non, mais écoutez,
ça a été repris par Kiss, non?
C'est en Do mineur, opus 24, une œuvre composée en 1880
ouais,
pour violoncelle et piano.
Ah, c'est ce qu'ils jouent dans ta voiture, les musiciens.
Concerto.
L'œuvre présente une ouverture triste et sombre et culmine dans une section intense et très lente qui symbolise le désespoir amoureux.
Une pastorale.
L'œuvre réclame deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, quatre corps et des cordes pour accompagner
le
violoncelle.
C'est utile, une corde.
Un poitron.
Ah ouais, c'est un truc le plus utile.
Des désolations.
On va donner 300 euros.
Ça m'énerve.
Des désolations.
Désolation, non. Aïe, c'est triste.
Les lacrymoses.
Comment vous dites-vous?
Lacrymoses.
Non.
Les malédictions.
Les désespérados.
Non.
Les pleurettes.
Non plus.
Les suicides.
Les lamentos.
L'élégie.
Quoi?
L'élégie.
Élégie. Oui, bonne réponse de Christine, bravo. Sur le fil. Bravo, Christine. Une question pour Pauline Claverie, qui habitait Lincourt dans le Nord. Et la question concerne, puisqu'on a des acteurs ici présents aujourd'hui, même Julie Leclerc a joué au théâtre.
Yes.
Dans son enfance, enfin dans ma jeunesse. Dans votre jeunesse, avant qu'elle rencontre Patrick Topalov.
Oh, arrête avec ça. Arrêtez, Laurent, s'il vous plaît.
T'as connu Molière?
J'aurais préféré, oui.
Ah ben la pièce dont je vais vous demander l'auteur n'est pas une pièce de Molière. D'ailleurs, je ne vais pas vous donner l'auteur.
Ah bah alors.
Ben c'est quoi, vous ne donnez rien là.
Si, je vais vous donner l'auteur, mais il faut retrouver le nom de la pièce.
D'accord.
D'accord.
L'auteur, c'est une des rares pièces d'ailleurs, parce qu'il a écrit surtout des romans, est une pièce d'Honoré de Balzac.
Oh là là, oui.
Comment s'appelle cette pièce de Balzac?
Ah oui, c'était le...
Alors, monsieur Junior,
on m'a demandé. On
une pièce, évidemment, à laquelle.
C'est sur un financier.
Oui, sur
c'est
un financier.
C'est pas Adieu, c'est la bourse.
La bourse, non. Non,
c'est pas les quelque chose.
Non, une pièce de Balzac.
Alors, à jouer.
C'est un mot, Laurent.
Ah, c'est deux mots. Et si je vous en parle, c'est parce qu'évidemment, ces deux mots reviennent dans l'actualité. À tort, d'ailleurs.
C'est le faiseur.
C'est le faiseur.
Le faiseur.
Ouais.
Bonne réponse de Christine, bravo. La pièce ne s'appelait pas ainsi au départ. Quand lui, il a écrit cette pièce, Honoré de Balzac, elle s'appelait Mercadet. C'est Jean Villard qui, en 1957, en a fait le faiseur. Une pièce qui a été jouée régulièrement.
C'est sur un boursicoteur.
D'ailleurs, depuis, Romain Renucci, il n'y a pas longtemps, l'a mise en scène. Michel Galabru l'a joué. Beaucoup d'autres.
On l'a proposé.
On vous l'a proposé aussi. C'est effectivement l'histoire d'un homme criblé de dettes qui veut marier sa fille un homme très très riche. Mais il se trouve que cet homme très très riche, en fait, est lui aussi criblé de dettes. Puis il y a un autre type qui s'appelle Godot qui soi-disant est celui
ça, c'est Beckett en attendant Godot.
Oui, mais justement...
Non, il y a un Godot dans le faiseur.
Exactement, il y a aussi un Godot dans le faiseur et justement, c'est un peu comme un hommage parce qu'on peut croire que c'est en attendant Godot mais pas Godot. Bah, enfin, sauf que Balzac avait écrit le faiseur
avant Beckett.
Avant Beckett, évidemment, effectivement, le Godot existait déjà dans la pièce Le Faiseur. Pourquoi j'ai pensé au faiseur? Parce que vous avez sûrement entendu Valérie Pécresse qui n'arrête pas de dire « Je suis une faiseuse, moi. Je suis pas une oratrice, je suis pas une parleuse, je suis une faiseuse. » Mais elle devrait pas employer ce terme, parce que un faiseur...
C'est un huissier.
Un florentin.
C'est quelqu'un qui tente sans affaire, sans forcément réussir une seule.
Ça me rappelle quelqu'un.
Donc je pense que si elle a des conseillers en communication, il vaut mieux qu'elle arrête de dire « Je suis une faiseuse. »
Elle s'en fout, elle joue dans la Gare des Étoiles. Elle s'en fout.
Mais en tout cas, le faiseur, c'était bien la pièce d'Honoré de Balzac. Bravo à Christine. On a déjà fait une question musicale, mais j'en tente une deuxième avant 16h, puisqu'il y a pile 70 ans, sortait une chanson qui fut interdite sur les antennes radio. Laquelle ?
Le déserteur.
Le déserteur,
non,
j'allais dire.
Non, c'est en 1952 que sortait 52. Cette chanson qui n'est pas le déserteur de Boris.
C'était chanté par une femme ?
Non,
non,
chanté...
par un homme.
Oui.
Elle
est forte. Hein.
Ça, tout de suite, c'est pas une femme. Mais je vois
ça aurait pu
c'est.
Être René Latope, tu me diras. Mais...
Non, mais je vois qui c'est le type à moustache, là.
Jean Ferrat ?
Brassens ? Non.
Une mais chanson de Brassens.
Barillet ?
Oui, une
le
chanson.
Gorille.
Le gorille ?
Pas le gorille.
Non. Ah bah alors
la
c'est les flics.
La mauvaise réputation. Ouais. Bonne réponse de Gérard Junior.
J'adore.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise j'adore. Réputation. Je me démène ou que je reste quoi ? J'adore. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.
Interdite d'antenne, vous rendez compte, en 1952. Ah, les choses ont changé quand même.
C'est ma chanson préférée.
Ah oui, pourquoi ?
Avoir une bonne réputation, c'est minable.
Ah oui ?
Ah alors, non, moi j'aime bien.
D'ailleurs.
Non, Christine.
D'ailleurs, Charlemagne a dit. Charlemagne ? Charlemagne.
Elle a été bien connu, fais-lui confiance.
Il a dit...
Sacré Charlemagne.
Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.
C'est Charlemagne qui a dit ça ?
Bon ?
Oui.
Ne bougez pas, mesdames
n'importe
et messieurs.
N'importe quoi.
Ça, je trouve ça très chelou. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.
On ne connaît pas l'auteur de cette phrase.
Non, mais
c'est pas Charlemagne. Non, non, c'est pas Charlemagne.
Non, 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 c'est pas
c'est
Charlemagne.
Ariel Dombal.
Je viens de vérifier.
Alors
Charlemagne...
Charlemagne
a dit « Sodomie du matin, fraîcheur du vagin, sodomie du soir, repose les mâchoires.
» Mais ça n'a rien à voir.
Pardon d'être un peu littéraire.
Je comprends.
Non, mais Charlemagne, qui est quand même le roi des Francs.
Oui.
Et qui... Donc... Merci.
C'est Clovis, le roi des Francs.
Mais il était allemand.
C'est pas Charlemagne. C'est Clovis, le roi des Francs.
Oui, mais on le connaît pas.
Laurent, vous chipotez.
On ne connaît pas la date de naissance de Charlemagne.
Charlemagne, c'est l'empereur. Il n'est pas roi des Francs, il est empereur.
Il est mort en 817.
Charlemagne,
il est mort en 817.
Attendez, je vérifie.
Couronné en 800.
Il est mort en 814.
Ah bon, bah c'était pas tout près quand même.
Non mais il a traîné, il a traîné.
Pas loin. Sa sœur s'appelait Martine, allez-y.
Est-ce qu'on connaît la date de naissance de Charlemagne ? Non.
Non, ça non, mais on connaît la date de sa mort.
Ben voilà une vérité tout de même.
Oh, l'escroc. Mais...
C'est une escroque.
Mais ça c'est typiquement les dîners mondains, tu sais, où chacun, alors chaque œuf, elle nous fait la même chose. Chacun, parce que alors je vais vous dire, depuis que je fais cette émission ici aux Grosses Têtes, oui, quelle n'est pas ma désillusion. Je me suis rendu compte que tous ces gens qui vous font croire qu'ils ont tout lu, qu'ils savent tout, mais alors ils ne savent, alors ils, alors oui, ils sont là, ils se la pètent. Enfin, ah oui, oui, ah oui, comme Romain Gary. Puis alors après, vous les interrogez sur les morsures de l'eau, mais ils n'ont jamais lu le bouquin. Vous voyez.
Non, je
vous
jure. Ils ont lu les suçons du soir.
Vous n'êtes pas d'accord, Tchakalov ?
Non, je ne suis pas d'accord.
Tout n'est que paraître. Je vais retourner au Havre.
On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut.
Les morsures de l'aube.
Par moment, on se trompe.
Les morsures de l'aube.
Vous qui produisez,
oui,
vous qui avez le sens des affaires, les trois là sur scène, vous n'avez pas envie de les produire les trois ensemble ?
Ah, génial !
Quels trois ?
Bah, nous trois.
Bravo, bah si. Dombal et Julie.
Et Tchakalov alors ?
Moi je suis un peu au-dessus.
Non, pas Tchakalov.
Bon, moi je suis le cerveau, elle est la beauté, et Julie elle est quoi ?
La vieillesse.
Moi la seule raison pour laquelle je continue à venir dans cette émission, c'est parce que j'espère qu'un jour Laurent me produira.
Ah oui, pour,
ah bon, pour faire quoi,
pour faire quoi?
Ce que vous voulez, un one-man show, j'aimerais bien.
C'est pas vrai.
Si, si, c'est mon rêve.
Alors, voilà autre chose.
Attends, mais tu vas raconter quoi?
Ah ben, je vous dirai ça alors, dans les loges.
J'ai sucé Jospin, j'ai sucé Sarko. Elle peut tenir 2 heures. Hein.
Allez, on se retrouve après les infos de 16h.
Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Gaël Tchakalov, Ariel Dombal, Julie Leclerc, Christine Bravo, Gérard Jugnot et Laurent Baffi. Pour Ghislaine Abbé, qui habite Villeurbanne, pouvez-vous me donner le vrai nom de la comtesse de Ségur?
Charlotte de Turquieff.
Turquieff.
Princesse.
Alors, je veux le prénom et le nom. Hein.
Alors, oui.
Le prénom, c'est facile.
Sophie.
Eh oui.
Sophie.
Sophie Rostopchine.
Bonne réponse de Christine Bravo.
Non, attendez, j'ai trouvé le prénom.
Là, j'aimerais que vous me retrouviez. Non pas le nom, parce que le nom, je vais vous le donner.
Ah bah oui, alors.
Mathilde Mottet, c'est son nom.
Mathilde Mottet.
Elle est morte à Nice à 61 ans, Mathilde Mottet. Et j'aimerais que vous me retrouviez de qui elle parle dans les mémoires de sa vie. C'est l'unique livre qu'elle a publié, Les mémoires de ma vie, publié en 1935 de Mathilde Mottet.
Elle peut parler de Stendhal?
Ah non, elle est morte en 14, hein, 1914, ah, mais les mémoires sont arrivées, ont été publiées bien après. De Stendhal, non.
Un écrivain?
Un écrivain,
d'un
oui.
Un grand auteur.
Un grand auteur, oui, écrivain.
Que on a tous lu.
Ah, lu, c'est écrivain et pas écrivain.
Poète.
Un poète, oui.
Verlaine.
Verlaine, ah, bonne réponse de Gérard Jugnot. Et oui, elle a été quittée par Verlaine pour Arthur Rimbaud, la pauvre.
Mais c'était sa femme, je crois.
Eh oui, mais c'est ce que je vous dis, Mathilde Mottet. Et elle a écrit après la mort de Verlaine, qui fut mon premier mari, ses amis créèrent autour de lui une sorte de légende où je suis trop souvent représenté sous des couleurs peu flatteuses. Voilà pourquoi j'écris ce livre. Aujourd'hui, que je ne suis plus une jeune femme, je puis affirmer sans aucune vanité que je n'ai jamais ressemblé à la petite personne sèche que querelleuse et acariâtre que Verlaine a dépeinte dans des moments de mauvaise humeur et de rancune. On verra par la suite de cette histoire que j'ai eu au contraire toute patience.
Ah, bah oui.
La pauvre, vous vous rendez compte, un peu.
L'alcoolique.
Bah oui.
La pauvre Mathilde Mottet qui fut la première femme de Verlaine qui s'est tirée pour Rimbaud, vous rendez compte un peu. Préféreriez que votre mari parte pour un homme ou pour une femme, Christine?
Oh là là, la question qui tue.
Pour une femme.
Je préférerais qu'il parte.
Non mais pour une femme, parce qu'un homme ne peut pas entrer en concurrence. Il vaut mieux qu'il parte pour une femme.
Ah bon?
Bah, un homme, moi je peux pas concurrencer un homme, vous voyez, je peux pas me mettre dans la peau d'un
ça,
homme.
Ça c'est vrai.
Non, parce qu'un homme qui se met à aimer un homme, on peut pas le faire changer d'avis. Moi j'ai été amoureuse deux fois d'un homosexuel dans ma vie. C'est très compliqué de le mettre à l'hétérosexualité.
Elle y est pas arrivée, elle y est pas arrivée.
En même temps, il s'appelait Michou, la barre était haute.
Vous aussi, vous êtes tombé amoureux et ça n'a pas marché.
Ah bah comme tout le monde, on a tous des râteaux dans la vie.
Ah oui, vous en avez pris des râteaux.
Ah. Ok, la prochaine question littéraire va être encore plus difficile. Ah bah tiens, je vais vous demander le nom de celui... Oh, c'est pas facile ça, alors. Je vous préviens d'avance, ça peut être 300 euros pour nos auditeurs. Et c'est tant mieux pour Aurélie Date, qui habite Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. Pouvez-vous retrouver le nom de celui qui fut l'initiateur du projet de l'Académie française ?
Richelieu !
Oh,
Charlemagne !
Bah, non, justement.
Non, c'est Mazarin, Mazarin.
Justement, Richelieu lui a confié l'écriture des statuts de l'Académie française.
Voilà. C'est au XVIIe siècle ?
Les auditeurs connaissent des vérités.
C'est au XVIIe siècle ?
Ah bah évidemment, oui. On est en 1635, et Richelieu le nomme même secrétaire perpétuel.
Molière ?
Et c'est lui, parce qu'il avait déjà un petit cercle littéraire, voyez-vous, où il invitait différents auteurs, différents écrivains, c'est lui qui a donné l'idée à Richelieu de créer cette Académie française.
Merde.
Richepin ?
Richepin, non.
C'est un noble, un noble.
Ah non, c'est pas un noble.
Un homme politique.
Ah tiens, je vais même vous donner, puisque c'était la Saint-Valentin hier, son prénom. Il s'appelait Valentin, mais Valentin comment ?
Oh la vache, Fouquet ? Valentin.
Non. Est-ce que c'était un ecclésiastique ?
Ah non, pas du tout. Non, 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 non.
Et qu'est-ce qu'il a laissé, Laurent ?
Jacques Coeur ?
Ah bah, il a laissé l'Académie française, c'est pas rien, quand même.
Oui. Parce non, mais que... il l'a initié, il l'a pas créé, à part ça.
Si, il l'a créé parce que c'est lui qui a écrit les statuts de l'Académie française. Il en a rédigé les statuts en 1634. Après, il a fait venir 13 nouveaux membres dans son salon littéraire qu'on a appelé académiste jusqu'en 1636.
Mazarin ?
Mazarin,
non.
Et alors, je vais vous dire, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'il était protestant, et Richelieu l'a quand même maintenu dans sa fonction jusqu'à sa mort.
C'est vachement dur, là, votre
question. C'est
incroyable. Ah bah oui, mais vous aviez qu'à être gentil.
C'est vachement dur. Alors, c'est pas de ma faute si vous avez pris des râteaux, vous avez pris des râteaux.
Bah oui, mais enfin là, c'est vous qui en prenez un, comme ça, vous voyez.
Mais son nom est bien associé à autre chose.
Et vous êtes pas très reconnaissant, parce que vraiment, je vous ai sauvé des coups hein, dans la vie.
On va tout savoir. Bon. Je pense qu'il faut creuser parce qu'on va avoir du matos là.
Vous m'en avez surtout. Non, elle va pas être contente. Vous m'en avez surtout bu.
Son nom est associé à autre chose que l'Académie française, non ?
Non, mais il doit y avoir une ou deux rues quelque part en France quand même.
Est-ce qu'il y a un rébus qui pourrait nous aider ?
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est vrai que si on regarde son nom, on se dit que son nom est un mensonge.
Ah, Valentin Péché.
Non,
mais
non.
Valentin Faucus.
Surtout ici.
Enfin, c'est pas un mec qui a laissé un grand nom dans l'histoire, Laurent Ruquier.
Oui, bah nous non plus, puis on est bien là quand même.
Valentin Bobard.
Bobard, non, non.
Ah, c'est pas mal.
300 euros déjà, mais ça je m'en doutais, hein, pour Aurélie Date. Je vous avais dit, celle-ci
Gourance,
sera...
Comment vous dites ?
Gourance. Gourance, non, non, c'est pas un synonyme de mensonge. Ah. C'est juste que...
Quand... De bêtise, c'est un synonyme de bêtise.
Quand on voit son nom, effectivement, on se dit, bah non, c'est pas vrai. Voyez.
Le beau.
Non, non.
Le
non,
nu.
Non, non.
Le
non,
grand.
Non, non, non.
Le
non.
Faux.
Non, non plus. Non, bon. Non, non.
Valentin Le Four.
Non plus.
Bon, enfin, on peut bien filer 300 balles parce que ça fait deux jours que je suis là et que les mecs ont rien gagné. Alors.
Ça y est, elle a pris un boulard d'enfer, elle.
300 euros pour Aurélie Date d'Anglette et personne dans la salle ne va ajouter 100 euros dans les gains. Il s'agissait de Valentin Conrart.
Bon, bon alors.
Valentin Conrart.
Jamais on ne s'est parlé de Conrart.
Pardon ?
Ah, voilà le Conrart. Ah, voilà.
Elle a compris, Valentin Conrart.
Le mensonge, un Conrart. Oh là là.
Une question pour Géraldine Braquet, qui habite Toulouse. Saurez-vous retrouver le nom de ce peintre qui est enterré à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Enfin, quand je dis enterré, son tombeau, évidemment, s'y trouve. C'est sa femme, Suzanne Butet, qui a commandé la sculpture de ce magnifique tombeau qui se trouve en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay.
Alors, elle est sympa, cette église.
Est-ce que ce serait Le Brun.
Excellente réponse, Ariel Dombal.
C'est Vigée. C'est Vigée Le Brun.
Non, c'est Charles Le Brun.
C'est facile quand on est intégriste.
Et oui, comment ça se fait que vous connaissez si bien l'église Saint-Nicolas du Chardonnay?
Non, non, mais je connais bien les églises de France. J'adore les églises. Ben oui.
Ben oui, c'est... Quand elle prend le si, elle fait non, c'est trop pour moi, mettez-moi la moitié.
Charles Le Brun, premier peintre du roi Louis XIV, directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture et de la Manufacture royale des Gobelins, qui n'a rien à voir, chère Christine, avec Vigée Le Brun. Vous mélangez tous les Le Brun.
Eh ouais, c'est une femme, Vigée Le Brun.
Bravo, Ariel. Une question zoologique pour monsieur. Monsieur Baffy. Et pour Claire Boulot, qui habite Strasbourg. Quel animal a son oreille située sur le tibia avant?
La sauterelle.
Pardon?
La sauterelle.
La sauterelle, bonne réponse.
C'est dingue.
Mais c'est incroyable.
Comment elle fait pour faire tenir ses lunettes?
Non, mais est-ce que l'oreille est visible?
Non, c'est une oreille interne située sur le tibia avant. C'est la plus petite oreille de son genre dans la nature. Il n'y a pas plus de grosse... Enfin, il n'y a pas de grosse...
Si, il y a Niki Lauda aussi.
C'était ce que... C'est horrible. Tu joues au foot, tu prends un coup dans les oreilles.
Et c'est une oreille capable d'entendre des sons très très lointains et très très petits. Elle a une oreille qui permet d'entendre mieux que les chiens et les humains. Et
selon... Mais elle rapporte moins bien.
Et selon certains chercheurs, ça lui permet de communiquer. Elle communique entre sauterelles sans se faire entendre de ses prédateurs.
C'est affreux. Elle entend les vibrations.
Comme la chauve-souris. Pour Marina Potiron, qui habite Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, pouvez-vous me dire quel animal a un cri qui va d'un simple gazouillement à un son quasi musical proche du baiser?
La harpie.
Non.
Le colibri.
Un oiseau.
Colibri.
Non, cet animal peut même produire des cris plaintifs lorsqu'on l'attrape.
Ah, ça s'attrape.
Oui.
Le puffin femelle.
Non.
Est-ce que vous en avez déjà attrapé?
Voire même une note aiguë analogue au son produit par une flûte.
Moi, quand j'ai attrapé la ch'touille, j'ai poussé un cri aigu.
Non, mais ça peut être le joli petit cochon.
Non.
Bon, est-ce que déjà elle marche à quatre pattes, l'animal?
On peut même entendre des cris d'agonie lorsqu'ils sont cuits vivants.
C'est pas là.
Le homard.
Quoi? Le homard, non.
La langouste.
La langouste, non.
Le suppôt.
Ça se bouffe.
Oui, ça bouffe, comme
ça
vous dites.
Dans l'eau, Laurent.
Un animal marin?
Chez moi, ça se déguste.
Un animal marin,
mais vous, vous avez les moyens.
Alors, il y en a dans l'eau, mais généralement, c'est plutôt sur terre.
Des grenouilles?
Des grenouilles, non.
Des escargots?
Des escargots. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Baffy? Vous contestez ma question?
Non, je sais que vous en avez bavé pour la trouver, mais je m'interroge. J'ai entendu de cris d'escargot.
Ah bah ça, je vous jure.
Mais je vous crois, Laurent.
Chant et bruit d'escargot. Quand l'animal est excité, une masse de gaz, telle des bulles d'air emprisonnées dans une cavité.
Ça, c'est génial, c'est génial.
Se trouve chassé et passe à travers un orifice étroit, encombré de liquide plus ou moins visqueux.
Ah, c'est le trou du cul.
Ce qui fait que tout ça barbote un peu et le bruit produit, selon les circonstances, va d'un simple gazouillement à un son musical.
Ah bon?
Un son proche d'un baiser, vous voyez.
Ça y est, je bande.
De même, le contact entre la coquille de l'escargot et une vitre en verre émet lors du déplacement de l'animal.
Ah oui, ça on l'a entendu.
Voilà, un bruit similaire à celui d'un doigt mouillé sur du verre. Vous voyez?
Ah ben, je débande.
Un peu comme un archer sur un instrument à cordes. Et alors, ça je l'ignorais.
Et le bruit de l'agonie, c'est...
Eh ben c'est ça. C'est que certains escargots, comme l'Helix aspersa, lancent des cris d'agonie lorsqu'ils sont cuits vivant.
Oh, quelle horreur!
Je vous jure.
Vous savez, on a beaucoup à découvrir sur la souffrance animale.
Ou alors c'est qu'ils réclament leur accompagnement. Ils font aïe, aïe, aïe. Non, mais je ne sais pas, mais l'escargot souffre quand on le cuit, c'est terrible. Ah,
oui, tout le monde souffre aussi, quand on le cuit.
Pardon?
Tout le monde souffre quand on le cuit.
Oui.
Mais vous savez, l'escargot, c'est tout simplement une limace qui a accédé à la propriété. Hein.
Ah ben, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est que dès qu'on cuit quelqu'un ou quelque chose.
Par exemple, en Papouasie, oui, parce que j'y suis allé en Papouasie, on cuit encore des gens.
C'est pas vrai.
Si, si, ils mangent des gens.
Vous voulez pas nous faire croire encore que le cannibalisme.
Si, en Papouasie, on mange des gens. Ah, à oui. La broche, oui. À il faut tourner vite. Parce que, en général, les papous, ils mettent des pommes de terre avec, et quand tu tournes pas assez vite, le mec, il pique les pommes de terre.
Elle est folle.
Complètement.
Il y avait un humoriste, ouais. Un humoriste chansonnier qui faisait cabaret qui s'appelait Ibrahim Seck.
Ouais.
Vous vous souvenez d'Ibrahim Seck?
Oui,
il était dans les émissions Alors raconte et bien raconte et tout ça. Et Ibrahim Seck, il ne racontait que des histoires de cannibalisme.
C'est pas vrai.
Mais aujourd'hui, le pauvre, il a disparu. Ça, c'est tellement hors de mode, ma pauvre.
Ah ouais.
Je suis désolé, mais ça va plaire à Zemmour.
Alors, vu comme ça.
RTL, le livre du jour.
Le livre du jour est signé Adeline Vaillant. Je donne pas le titre du livre, ce serait trop facile, c'est l'objet même de la question. Adeline Vaillant est psychologue clinicienne depuis plus de 20 ans et elle s'occupe essentiellement des enfants d'ailleurs. Et elle a trouvé une façon originale et belle d'ailleurs qu'elle nous raconte dans son livre de soigner certains enfants. C'est une forme de thérapie d'ailleurs initiée au départ aux États-Unis dans les années 60 par un pédopsychiatre qui s'appelait Boris Levinson et une américaine qui s'appelait Elaine Smith. Quelle est l'idée de cette française psychologue clinicienne Adeline Vaillant qui a eu du mal au départ à convaincre certains hôpitaux?
C'est lié à l'équithérapie?
C'est-à-dire?
Est-ce que c'est on soigne les enfants par les chevaux?
Alors par les chevaux, non, mais vous n'êtes pas loin.
Il y a un animal.
Les cheveux. Le contact avec les animaux.
Oui, mais lequel?
Le chien. Le chien.
Avec les chiens. Bonne réponse de Laurent Baffy, aidé par Gaël Tchakaloff. C'est de la cynothérapie. Voilà le terme exact. Bonjour, Adeline Vaillant.
Oui, bonjour Laurent et bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, vous avez commencé avec, c'était une chienne hein, d'ailleurs au départ, je crois, avec laquelle vous avez commencé, c'est bien
oui,
ça,
c'est ça.
Qui, elle, n'avait pas le droit, dans un premier temps, de rentrer dans les hôpitaux, j'imagine.
Alors non, à l'époque, comme votre invité disait précédemment, oui, on faisait déjà de l'équithérapie.
Avec les chevaux, donc.
Avec les chevaux, oui. Et moi, j'avais pas entendu parler de médiation animale avec les chiens. Mais l'idée est venue parce que un des enfants autistes que j'emmenais au poney, justement, avait peur du chien qui était au centre équestre. Et à l'époque, j'avais un Golden Retriever qui écoutait les consignes des enfants de 3 ans. Donc l'hypothèse que j'avais, c'était que si ce chien écoutait mon patient, lui reprendrait un petit peu de contrôle sur cet animal un petit peu anxiogène pour lui. Et donc, tout irait mieux. Et l'hypothèse, heureusement, a été vérifiée.
Ça s'est confirmé. Alors souvent, et là, c'est une question qui m'intéresse, parce que j'ai moi-même un labrador, souvent, les chiens qui sont choisis pour la cynothérapie, mais aussi, je sais bien que les deux choses sont très différentes, entre les animaux de compagnie, comme par exemple les non-voyants, qui sont des animaux d'accompagnement, alors que là, les chiens en question, il faut absolument, évidemment, on ne les laisse pas avec l'enfant ou la personne à soigner. Le chien est un intermédiaire seulement. On est bien d'accord, hein,
oui, c'est
Vaillant.
Ça, c'est un médiateur.
Mais quand même, dans les deux cas, c'est souvent ou des labradors ou des golden retrievers.
Oui, parce que ça s'est très mal passé avec les pitbulls.
Sérieusement, il y a une raison.
Alors, les retrievers, hein, ce sont des chiens, enfin les golden particulièrement, les labradors, c'est vrai aussi, sont des chiens qui sont assez attirés par l'humain. Mais je dois dire qu'il y a aussi des petits chiens quand même qui sont utilisés.
Le
oui,
teckel,
oui.
Le chihuahua.
Le bichon maltais,
c'est mauvais.
Le bichon maltais.
Le bichon, oui, j'ai une amie qui utilise son bichon parce que comme tous les publics sont variés, on peut mettre comme ça le petit chien sur les genoux par exemple d'une personne âgée. Un grand chien peut peut-être effrayer aussi certaines personnes.
Oui, à Saint-Bernard, ce serait malvenu.
Oh, la vieille, elle boirait le rhum. Hein.
Mais alors, ce qui est magnifique dans votre livre, c'est que vous racontez tout votre parcours. Quel est l'hôpital, par curiosité, qui le premier a accepté votre intervention avec un chien?
C'est l'hôpital à La Roche-sur-Yon, en Vendée.
À La Roche-sur-Yon, en Vendée.
Oui.
Écoutez, bravo pour cette idée, Wigal Tchakaloff.
Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'il faut un diplôme pour faire de la médiation animale? Parce que moi je cherche à me recycler après les grosses têtes.
Alors, il y a pas mal de formations. Moi, étant donné que je travaille à l'hôpital, je voulais une caution universitaire. Donc j'ai passé un diplôme universitaire, mais vous avez toutes
de
sortes
médiation
de
animale.
Oui, elle apprend à ramasser les crottes pendant 3 ans.
C'est plus efficace que la ronron-thérapie.
Alors, la ronronthérapie, moi, je ne connais pas, mais j'ai vu quelqu'un qui amenait son chat dans un EHPAD et ça marchait très très bien.
Ah, il y a des vieilles chattes dans les EHPAD.
Non, mais enfin, Laurent Baffi.
Non, mais ce qui est... Laurent Baffi aime beaucoup les animaux, alors je m'inquiète pas.
Merci, ça, il me sera pardonné. Merci, Adeline, de votre bienveillance.
Ça, c'est vrai que c'est un zoophile. C'est vrai qu'il aime les animaux. Mais je trouve que c'est ça d'ailleurs qui est triste. Certaines maisons de retraite acceptent les animaux, mais elles sont très peu nombreuses.
Mais c'est Madame Chirac qui a été à ça. Elle a beaucoup lutté pour que justement les gens âgés puissent emmener leur petit animal.
Il faut ramasser la merde des chiens.
Non, mais c'est... c'est...
Il va falloir plus de personnel.
Mais non.
Non, mais il faudrait des animaux dans tous les EHPAD pour
mais
les
bien sûr qu'il faudrait des animaux
sûr.
Dans tous
non,
les EHPAD.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas mieux qu'un chien, ouais, je vous jure.
Il y a
après,
déjà des cafards.
Même pour se faire lécher, c'est incroyable.
Ouais, après les journées que je passe ici avec des êtres humains que je souhaite à personne.
Ben, croyez-moi.
Croyez-moi quand je rentre.
Et que ne vous regarde.
Ah, mais d'un seul coup, ça me change de tout ce que j'ai pu subir pendant une journée. Il y a ce chien, lui, il est toujours là, il remue toujours mais la queue, il est toujours content.
Oh, j'en connais d'autres.
Surtout quand vous lui amenez ses croquettes. Hein.
Le chien qui soignait les enfants, c'est le livre d'Adeline Vaillant. On l'avait choisi comme livre du jour. C'est aux éditions La Boîte à Pandore. C'est une petite maison d'édition, donc c'est bien de le signaler. Chronique d'une cynothérapeute. C'est votre profession, cynothérapeute. Adeline Vaillant, le chien qui soignait les enfants, aux éditions La Boîte à Pandore. Une question pour Didier Lepin, qui habite Saint-Jean-d'Arvais, en Savoie. Que signifie l'adjectif jovien, J-O-V-I-E-N ?
Jovial.
Soyons. Non, jovien.
Ah bon.
Elle essaie toujours de détourner le truc.
Ça se féminise, ça fait jovienne aussi.
Oh, si vous voulez, jovienne.
Je reviens.
Non, jovien, jovien. Ça, c'est ce que vous criez le... Ça, c'est ce que vous avez crié cette nuit. Jovien. Non, J-O-V-I-E-N.
Est-ce que c'est un rapport avec son origine, l'endroit où on habite ?
Ça peut avoir un rapport avec...
C'est un rapport avec les Jeux Olympiques ?
Peu de gens habitent à cet endroit, pour tout vous dire. D'ailleurs, je pourrais même vous demander quel est le synonyme de jovien, car il y a un autre adjectif qui veut dire à peu près la même chose.
Est-ce que vous êtes plutôt jovien ?
Non, pas du tout. Mais vous connaissez quelqu'un qui est jovien.
C'est Macron.
Oui,
c'est Jupiter. Oui.
Et donc, ça veut dire ?
Eh ben, ça veut
il est
dire,
né en juin.
C'est jovien, ça
non,
veut dire qu'il y a un lien avec Jupiter.
Il est né en juillet.
Et Jupiter.
Jupiterien. Bonne réponse de Christine, bravo.
Et c'est moi qui l'ai dit.
Relatif à la planète Jupiter, jupitérien ou jovien, voilà. Évidemment. Alors, attention, il y a une petite nuance entre les deux termes. Jupitérien, ça vient, enfin, c'est relatif au dieu Jupiter, alors que jovien, c'est quand vous parlez de la planète.
Oui.
Jupiter.
Ah, d'accord.
Donc, quand vous m'avez demandé si on peut dire ça des habitants, c'est vrai que, à ma connaissance, il n'y a pas trop d'habitants sur la planète Jupiter.
Si, Péroni buvait beaucoup de Jupiter.
Mais il y a très, très peu de jovien. Mais en revanche, si vous voulez parler, je sais pas, d'une sonde qui serait partie sur la planète Jupiter.
Ah, moi, on m'a mis une sonde, mais c'était dans la Lune.
Ça va être une sonde jovienne. En revanche, vous allez avoir un caractère jupitérien, vous voyez, relatif au dieu Jupiter. Jovien ou jupitérien sont des quasi-synonymes, mais pas tout à fait quand même.
Ouais,
c'est ça qui est formidable dans la langue française, voyez-vous.
Bah, magnifique.
Mademoiselle Julie Leclerc. Elle boude Julie parce qu'elle dit que c'est elle qui l'a répondu.
Oh non, mais je boude pas du tout.
Ah si, si.
Non, c'est ton vrai visage.
Je vous écoute.
Une autre question, cette fois, pour Georgette Dragin, qui habite Grand Villard. Pouvez-vous me dire qui était exactement William Henry McCarthy, qui est mort en 1881?
Eh ben, c'est un Américain, celui qui a fait le McCarthyisme.
Non, pas du tout. Vous le connaissez sous un autre nom, William...
En 1880, c'est un écrivain?
Buffalo Bill?
Buffalo Bill, non.
Billy the Kid,
bonne réponse de Christine, bravo.
Bravo.
Une autre question de vocabulaire encore pour Sophie Hermel qui habite Laval en Mayenne.
Je la connais.
Pouvez-vous me dire le mot qui correspond à une attaque, une incursion rapide en territoire étranger dans le but de prendre un butin ?
C'est pas un raid.
Un raid, c'est équivalent à un raid, mais pas tout à fait. Un mot qui provient de l'arabe, mais qui signifie raid, invasion, incursion.
Bérézina ?
Bérézina, non.
Une pénétration.
Hé, hey, on peut saluer sa mémoire.
C'était la Saint-Valentin hier.
Ah non, mais Ariel. Ah non, non, hier, elle a eu le droit à un baiser. La pénétration sera pour le 14 juillet. Alors, c'est une tradition qui se pratiquait en Afrique, bien avant l'islam, dès l'époque de l'Égypte antique, quand on pillait les biens, qu'on massacrait certains hommes et certaines femmes, que les enfants étaient emmenés en esclavage, et certaines victimes devenaient même des esclaves.
Bérézina ?
Sexuelle, Bérézina, non.
Fatwa ?
Non, non.
Est-ce que c'est...
Fatwa, non.
Est-ce que c'est utilisé...
Je vous ai entendu, hein.
Oui, par moment, je me demande...
Faut pas croire que je ne vous écoute pas.
Est-ce que c'est utilisé dans la chasse ? Je pensais à Alali.
Alali, Alala, Alalo, non.
Alaloum,
Baraka.
Les Turcs, les Mongols en ont pratiqué sur les peuples. Les peuples.
C'est le principe du commando qui va.
Oui, mais c'est l'attaque que je vous demande d'identifier. Il y a eu des morts, MAURES qui ont pillé des villages mauritaniens, par exemple. On disait, ils font des...
Des radias.
Des
radias.
Radias. Oui. Bonne réponse de Christine Bravo et Julie Leclerc.
En même temps.
Une razzia, c'est une attaque, une incursion rapide en génial. Territoire étranger. C'est vrai qu'on n'utilise pas forcément ce mot-là dans
en
ce
cuisine,
sens.
Maintenant, on dit j'ai fait une razzia sur les truffes.
Oui.
Voilà. Oui, je pense aux truffes parce que j'ai fait une razzia sur les truffes hier.
Ah, on a les moyens maintenant. Hein.
Non, mais.
Ah, depuis qu'on pigeonne les touristes à Paris.
Oh. Et à la Saint-Valentin, mon bateau, il a navigué toute la journée, le froufrou, avec des amoureux.
C'est pas vrai.
Eh ouais, ils ont gagné un concours Deliveroo. J'ai eu 4 couples d'amoureux qu'on naviguait. Ils en revenaient pas, les gars.
Comment ça, ils n'en sont pas revenus ?
Eh ben, d'avoir un cadeau ! Mais tu sais combien ça coûte d'avoir un cadeau aussi prestigieux ?
Mais tu leur as offert à boire, à manger ?
J'ai rien offert, en revanche. Ah c'est bon Deliveroo qui leur a mis une pizza à bord.
Oh non, c'est...
Mais si, mais...
Heureusement que t'as rajouté des truffes, hein.
Et moi, j'étais vachement fier, voilà. Et ben, je voulais le dire, parce que pour une fois que je lance quelque chose qui marche, enfin, qui va marcher...
Il navigue. Ah, ça rapporte pas autant que vous pensiez votre affaire.
Bah, 2 ans de Covid. Il y a que vous qui avez gagné du pognon pendant le Covid, puisque vous avez pu continuer la radio, mais les pauvres artisans comme nous, on a été très impactés. Et puis quand on m'a proposé des aides, tiens, tu diras ça à Jupiter, à la Macron.
Ah, ça y est, ça recommence.
On m'a dit, ouais. Non, mais tu sais quoi ce qu'on m'a dit?
Mais parce qu'elle garde son air jovien, là, mais...
Tu sais ce qu'on m'a dit? On m'a dit, on va vous aider, madame Bravo. C'est quoi votre chiffre d'affaires? J'avais commencé en mars, la Covid était en mars. Bah oui. J'ai dit, c'est zéro, mais ils m'ont dit, bah, vous aurez zéro.
Bah oui.
Alors voilà pourquoi je viens là.
C'est quand même con de venir ici. Vous avez quitté votre péniche où il y avait des truffes pour en retrouver pendant l'émission. J'ai une autre question de vocabulaire, puisque vous semblez aimer ça, pour Anastasia j'adore. Moillier, qui habite Lancin dans l'Isère. Quelle est la subtilité, la différence entre l'adjectif gigantesque et l'adjectif colossal ?
La taille ?
Non.
Oh là. Alors, colossal, c'est...
C'est la forme, colossal.
C'est colosse.
Gigantesque, c'est rapport au géant.
Parce qu'il y en a un qui décrit les choses et l'autre qui décrit les êtres.
Excellente réponse de Gaël Tchakaloff.
Merci.
Alors...
Merci. Enfin, il dit excellente réponse et après il fait ouais.
Oui, pas tout à fait, parce que je suis allé un peu vite pour vous dire excellente réponse, mais là où vous avez raison.
Ouais. Non, j'étais tellement surpris.
C'est pas seulement les êtres, on va dire que gigantesque, ça s'utilise pour ce qui est l'œuvre de la nature. Donc évidemment, l'être humain, mais ça peut être aussi un animal, une fleur, un arbre gigantesque. En revanche, colossal, c'est tout ce qui est le produit de la construction ou de l'art, vous voyez. Un monument est colossal, un arbre est gigantesque.
Oui, bon, évidemment, je le savais, mais j'ai schématisé pour que tout le monde comprenne.
Oui, oui, ben, vous avez bien fait, ça nous a fait gagner du temps. On a déjà donné un chèque RTL, mais je vais en tenter un deuxième pour Pio Galviti, parce qu'il me semble que mes questions là étaient un peu faciles. Il s'agit de retrouver le nom d'un peintre à nouveau, mais pas le brun, hein, celui-là. Non, mais tout de même, un peintre qui a portraitisé une bonne partie de la famille royale sous Louis XV. Un peintre qui a même laissé son nom à un bleu. Le bleu intermédiaire entre le bleu roi et le bleu marine.
Tintoret,
non.
Magenta.
Majorelle.
Sion. Non, un peintre français, hein, évidemment.
C'est pas Leclin, c'est trop...
Ah, Leclin, non. Ça, c'est plus récent, contemporain, Klein. Non, là, il s'agit...
Indigo.
Indigo, non.
Azur.
Non, il s'agit d'un bleu du 18...
Le bleu roi.
Non, du 18e siècle, vous l'aurez compris, début 18e en tout cas. Quoi qu'il a, il a vécu très vieux, ce peintre, je suis en train de voir. Il est né en 1685 et il est mort en 1766.
On connaît ce bleu.
Le bleu d'Auvergne.
Le bleu d'Auvergne, non. Non, non, non. Mais c'est vrai qu'on dit le bleu 1-1, c'est son nom qui vient derrière.
C'est pas Puvis de Chavin.
Je peux même vous donner son prénom, il s'appelait Jean-Marc, ce peintre.
Ah bah, dis donc, c'est pas tellement... Louis XV.
Hein. Rien à voir avec Jeff Panacloc. Hein.
Ouais, c'est ça.
Sous Louis XV, il y avait un bleu céleste. Mais Céleste, ça peut pas être le nom d'un peintre.
C'est pas Jean-Marc Céleste, non. Il a eu une vie assez triste, hein, d'ailleurs, ce peintre.
Il avait une blouse.
Jean-Marc, non, non, mais je vous le dis, hein, il est mort en 1766 dans la pauvreté la plus terrible. Et en plus, il avait envoyé en Italie son fils, parce qu'il aimait, il avait envie que son fils devienne peintre, lui aussi, pour achever ses études de peinture. Et 6 mois après son arrivée à Rome, le fils s'est noyé en se baignant dans le Tibre. Ah, c'est terrible. Hein. Admettez qu'on ait quelqu'un ici qui aurait animé une émission qui s'appellerait « Les jupons de l'histoire ».
Oh, ça va.
Le bleu Poussin ?
Poussin, non.
Mais non.
Il a fait des portraits incroyables. Un portrait de Catherine Ière de Russie, du prince Alexandre Kourakine.
Ah, est-ce que ce ne serait pas le bleu Céladon ?
Le portrait de Madame de Pompadour.
Le bleu canard.
Le portrait de Marie Leczinska, reine de France. Oh. Vous voyez, portrait de la comtesse de Thiers. Portrait
cobalt
de
la prince... Le bleu cobalt.
Non, de
le
la
bleu bite.
La princesse de Rohan. Bleu cobalt, bleu bite, non.
C'est juste en dessous du marine, juste en dessous, la teinte d'en dessous, en fait.
Il a été le portraitiste officiel de la famille d'Orléans, puis ensuite de la cour.
Il ne m'écoute pas, le mec.
De la cour de Louis XV. C'est moi que vous appelez le mec,
oui,
là-bas.
Pardon, excusez-moi.
En dessous du marine, c'est le bleu Zemmour.
Non, c'est une nuance de bleu entre le bleu roi et le bleu marine.
Le bleu
donc
prince.
Donc c'est foncé.
Il y a 50 nuances ou pas ?
Bleu duc.
Ah ben il y en a des bleus, ça c'est
sûr. Mais oui, oui, c'est ça.
Est-ce qu'on cherche le nom du bleu ou le nom du peintre ?
C'est pareil.
C'est la même chose. Dis donc.
Ah, Julie.
Mais j'ai pas compris ça au départ.
Laurent, elle est tellement conne, si elle faisait un concours, elle finirait deuxième.
C'est
je veux
bleu,
retrouver mon chien, je veux retrouver mon chien.
C'est le même.
C'est un bleu qui tire vers le vert.
Oh, il tire à rien, mon bleu.
Le bleu zaille.
Non, mais je vous ai donné le prénom du peintre, Jean-Marc.
Jean-Marc.
Quand même, Christine, bravo. Vous l'avez animé, cette émission, les jupons
oui,
de l'histoire.
Oui, enfin, on n'a pas donné tous les peintres de cours dans l'émission.
Ah bah quand même, un peintre qui a laissé son nom à un bleu. Un peintre
un bleu qui est très connu.
Qui a peint la famille royale.
Oui, mais il y en a plein.
Pierre Ier, quand il est
Poussin
venu en France.
Le bleu Poussin.
Poussin, non. Quand il est venu en France, il s'est fait peindre aussi par ce peintre. Je vous ai dit, il a peint...
Bleu canari.
Non, bah bleu canari.
Ah oui, ah, oui. Ah, je le vois, ah, il tire sur le jaune, mais il est beau.
Le bleu canard WC aussi, tant que vous y êtes.
Le bleu orange, comme la terre est...
Non.
Le bleu millet. Millet, Courbet.
Il a peint les filles du roi, il a peint le dauphin, la dauphine.
On le connaît, le peintre
Ah bah manifestement, non, vous voyez.
Le bleu millet. Millet.
Millet, je l'ai dit.
On m'a donné 300 euros. Remarquez, je l'avais dit, hein, oui. J'avais prévenu, monsieur Galviti, Pio Galviti à Sannois dans le Val d'Oise, se frotte les mains, je lui avais promis 300 euros. Alors, et peut-être même quelqu'un dans le public va avoir le nom de ce peintre assez célèbre.
Alors les gens là.
Moi en tout cas, je connaissais son nom.
Je connaissais son nom.
Mon chien.
Pourquoi vous l'avez pas écrit
qui répond aux questions, puisqu'il est si malin.
Qui ça?
Votre chien.
– mon chien ce matin-là, avant de partir, avant de venir à RTL, il m'a fait comprendre qu'il avait plus d'eau dans sa gamelle.
Oh, comment ?
Ça m'a ému, mais ça m'a ému.
Mais comment il a fait comprendre ?
Comment il a fait ?
Il est venu vers moi ce matin, j'allais partir bêtement avec l'écuelle vide, vous voyez. Allez. Et là, il m'a fait, non, tu peux pas partir comme ça, il m'a fait. Tu peux pas partir. Et il m'a attiré vers sa gamelle.
Avec sa petite patte. Oh.
Ma chienne, elle m'a fait comprendre qu'elle avait plus d'argent sur sa carte bleue.
300 euros, voilà, à cause de ce peintre royal, Monsieur Galvitti est heureux. Est-ce que quelqu'un, regardez, il y a une main, c'est Serge, un des habitués de l'émission.
Ah, génial.
Je peux y aller, alors,
qui lève la main. Oui, allez-y, Gaël Chakalov.
C'est mon ami.
Mais alors, comment il faut que j'escalade ou pas?
Tu vas pas escalader, Serge, hein.
Bonjour, comment vous appelez-vous?
Bah, Serge.
Ah, non, je refais.
Mon chien, mon chien, je veux retrouver mon chien.
Attendez, je veux le faire.
Je veux retrouver mon chien.
Bon, je veux le faire face aux présentatrices de la météo.
Faut dire bonjour. Donc, Serge, comment c'est votre nom?
Non mais son nom, je lui ai demandé, pas son prénom.
Mais comment elle a pu écrire tous ces livres? Comment elle a pu faire?
Attendez, je vais poser une autre question. Vous habitez où, Serge?
Sanois, justement.
Non, morte de rire. Alors, et c'est le bleu.
Bon allez, Serge.
Serge, c'est le bleu comment alors?
Jean-Marc Nattier.
Jean-Marc Nattier.
Ah oui, le bleu Nattier. Oui.
Ah bah alors Julie Leclerc.
Mais oui, bien sûr.
Bah quoi, et oui. Bah pourquoi vous le dites pas avant?
Parce que bon, bravo, Serge. Des pertes de mémoire.
Et ben voilà.
Bravo, Serge.
Et nous on a perdu 400 euros au total.
Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL.
Marilyn est au téléphone. On vous a attendu, ça fait une heure, Marilyn. Hein.
Oui, oh non.
Vous êtes à Villefranche de Rouergue,
oui,
dans l'Aveyron. Bonjour, oui. Marilyn.
Bonjour, Marilyn. À toute l'équipe.
Ah bah,
bonjour.
Toute l'équipe.
À toute l'équipe. Et bonjour, Marilyn.
Elle est peut-être à la retraite, Marilyn.
Ah oui.
Ah oui, je vois 65 ans, je me dis. Oui. Hein.
Bon. J'aurais dû tricher sur l'âge.
Qu'est-ce que vous faisiez, Marilyn?
Moi, j'ai gardé des enfants pratiquement tout le temps et j'ai élevé les miennes.
Eh ben, c'est pas mal, déjà. Ben, Marilyn, je serais très heureux de vous offrir une semaine de vacances chez Pierre et Vacances pour 4 personnes. Vous allez partir avec donc 3 personnes de votre choix. Vous irez sur pierreetvacances.com choisir votre destination. Alors là, vous aurez l'embarras du choix. Il y a 158 Pierre et Vacances en France, à la montagne ou à la mer. Vous logerez en maison ou en appartement selon votre préférence. Tout équipé, tout confort. Vue imprenable à chaque fois. Mais pour ça, Marilyn, il faut faire quoi?
Il faut trouver celui qui répond convenablement.
Un bon choix. Questions.
Et oui. Et croyez-moi, comme j'ai laissé mon chien à la maison, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Sur qui vous misez?
C'est difficile.
Et oui.
Ben, je sais pas, j'hésite entre Gaël et Laurent Baffi.
Non, je suis nul. Prenez Gaël.
Ah là là, bon, vous lui poserez une question facile, hein. Je vais prendre Gaël.
Alors Gaël. Ah,
c'est-à-dire que moi, il me faut une question facile. Ben, je vous remercie, Marilyn.
Ah non. Mais...
Je vais faire ce que je peux pour vous, Marilyn.
Oui, bien sûr.
Ben, le mieux, c'est que je commence par l'autre côté, n'est-ce pas, Marilyn? Comme ça, parce que vous ne voyez pas ici le plan de table, mais il se trouve que Gaël Chakalov est en bout de table aujourd'hui.
Ah,
alors donc, si je me débrouille bien,
oui.
En commençant par l'autre bout, c'est-à-dire Julie Leclerc, et que j'élimine tout le monde, ça peut le faire.
Et oui, ça peut.
Elle n'aura même pas à répondre, la blonde, là-bas.
Oh, mais qu'il est vilain.
Alors attention, on commence par Julie Leclerc. Julie, pouvez-vous me dire qui est Ben Mazoué?
Oh, moi je sais.
Donc c'est quelqu'un qui a participé aux Jeux Olympiques.
Oui.
Hein? Et qui a été...
Et qui curieusement a gagné une victoire de la musique dans la catégorie concert de l'année.
Ça peut arriver.
Vous êtes éliminée, Julie Leclerc.
Au revoir tout le monde.
À vous Christine Bravo. Pouvez-vous me dire Christine qui est Carlo Ancelotti?
Qui ça?
Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti, il est dans l'actualité là.
Ah oui.
Ouais,
comme tous ceux dont je donne le nom.
Mais je sais, alors, c'est un entraîneur de football.
Oui.
Et pour le match ce soir.
Et donc l'entraîneur de...
Du Real Madrid.
Eh oui, bah c'est gagné. Bravo Christine. Alors là,
ça avait commencé bizarrement. Qui ça?
Ariel Dombasle, c'est à vous, cher Ariel. Pouvez-vous me dire qui est Florence Parly?
Florence Parly est maintenant va entrer au gouvernement. Et elle.
Vous le savez, Marilyn. Hein
Non.
Ah bon?
Non, avant, je savais, mais pas...
Mais pourquoi vous vous marrez alors, Marilyn?
Parce que quand elle répond, ça me fait rire, Ariel.
Alors, bon, bah, c'est une conseillère d'État, le ministère de l'Agriculture.
Alors, elle va y entrer. C'est la ministre des armées.
Franchement,
là,
mais
on va
oui.
peut-être être en guerre dans quelques jours.
Bah, oui.
C'est important de connaître le nom de notre ministre des armées.
Ah, oui.
Florence Parly, vous êtes éliminée, Ariel
oui,
Dombasle.
Oui.
Gérard Jugnot, mon bon Gérard.
Oui.
Pouvez-vous me dire qui était Yvan Reitman?
Ah oui, c'est le metteur en scène de ouais. Godbuster.
Excellente réponse de Gérard Jugnot.
Désolé.
Mais oui, et moi je savais ça parce que
mourir.
Il est mort.
Ah ben,
oui, qui était.
Et oui, il a effectivement réalisé SOS Fantôme
oui.
et aussi des films avec Schwarzenegger, Un flic à la maternelle et beaucoup d'autres. Il vient de nous quitter à l'âge de 75 ans, ce réalisateur canadien d'ailleurs, hein, d'origine Yvan Reitman. Gérard Jugnot reste en course, tout comme Christine Bravo. Oulala, les affaires vont mal pour vous, Marilyn.
Désolé, Marilyn.
Laurent Baffy, pouvez-vous me dire, Laurent, qui est Francis Khalifat?
Bien sûr.
C'est vrai.
Il voulait, bah, au départ, il n'était pas califat. Il voulait être califat à la place du califat.
Ouais.
Et il a ourdi en secret. Et maintenant, c'est le grand vizir qui vend la lessive de Christine.
C'est le président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Il y a un dîner du CRIF auquel les candidats, certains, pas tous, seront invités. On en parle beaucoup en ce moment. Vous êtes éliminé, monsieur Baffy.
Normal.
Et c'est au tour. De Gaël Tchakaloff.
Ah, la pétoche.
Obligé de répondre.
Qui est Guillaume Lacroix.
Ah, tu l'as pas sucé, celui-là. Hein.
C'est le porte-parole de... Le porte-parole de Éric Zemmour.
C'est un patron de parti, mais
ah, bah alors...
encore faut-il trouver le bon parti, et effectivement...
Les Républicains.
Non, c'est le patron
le
du...
Le PRG. Non, c'est pas ça.
Je lui accorde, c'est le patron du Parti
Merci.
Radical de gauche. C'est pour vous, Marilyn. Donc il me reste à éliminer Christine Bravo et Ariel Dombasle.
Et moi?
Non.
Non.
Non, et Gérard Jugnot. Non, oui, c'est vrai qu'Ariel est éliminée.
Moi,
elle est éliminée depuis 15h30.
Paris.
Elle est éliminée. Christine Bravo, pouvez-vous me dire qui est Joanne Claret?
Joanne,
Claret.
C'est un breton.
Je ne sais pas si il est breton, mais il est français en tout cas.
Voilà,
il est
ben, c'est pareil. Et donc, je l'ai niqué.
C'est Pierre Bénichoux qui disait ça. Il a 41 ans, c'est le plus vieux médaillé de l'histoire du ski alpin.
Oui.
Il a pris la médaille d'argent en descente. C'est une médaille de plus pour les Français qu'on a obtenue il y a quelques jours. Mais surtout, c'est le plus vieux médaillé de l'histoire du ski alpin.
Et Christine
alpin.
A la médaille d'or en descente.
Elle est éliminée en tout cas. Jugnot, Gérard.
Oui, bonjour.
Alors, je vais essayer de vous éliminer pour faire gagner Marilyn. Gérard Jugnot, qui est Agathe Oprou.
Je pense qu'elle joue aux Jeux Olympiques. Elle lance le disque en gelé.
Ah non, c'est une chroniqueuse télé.
De chez Hanouna.
Voilà, qui a été, hélas, victime d'un cancer et elle a participé à la journée récente, journée mondiale de lutte contre le cancer, en témoignant justement de sa façon de s'en sortir, Agathe Oprou.
Ouais.
Vous êtes éliminée et je croyais pas le dire un jour. Mais la grande gagnante est Gaëlle Tchakaloff et vous, Marilyn, par la même occasion. Bravo, Marilyn.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Ariel Dombasle, Julie Leclerc, Christine Bravo, Gaëlle Tchakaloff, Laurent Baffie et Gérard Jugnot. Ah, une question pour Jean-Luc Hubert, qui habite Mantes-la-Jolie. Ah, ça peut être trouvable aussi par Gaël Tchakaloff, parce que c'est un peu mondain, c'est un peu people, politique en même temps, c'est tout pour elle, la question.
Vous n'avez pas du tout compris qui j'étais, en fait.
Ah, c'est vrai?
Oui, il faut qu'on creuse le sujet ensemble.
Pourtant, je suis sûr que vous allez pouvoir me dire qui a été nommé par Emmanuel Macron comme ambassadeur des pôles, il y a quelque temps, pour succéder à Ségolène Royal.
Des pôles?
Oui, des pôles, oui.
Un homme?
Oui, mais en Normandie, c'est que Léo, se disent à peu près tous de la même façon.
Alors.
C'est un homme?
C'est un homme qui succède.
C'est un homme écrivain?
Il y a un moment, hein, évidemment, il a été nommé en novembre 2020. Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup de Ségolène Royal. Souvent, ouais. Il reprochait même de pas être trop souvent sur place, vous voyez, à Ségolène, quand elle était ambassadrice des pôles.
C'est un homme écrivain, Laurent Ruquier?
Oui, madame Tchakala.
C'est pas genre moi, Tessier ou Nourricier?
Ah non, 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 mais c'est un écrivain, c'est vrai.
Ruffin?
Ruffin, non.
Tesson?
Tesson, non.
C'est un écrivain aventurier?
De toute façon, je veux son prénom et vous comprendrez...
Ah oui. Jean-Christophe?
Non, et vous comprendrez pourquoi quand vous aurez trouvé le nom.
Paul?
Non.
Il s'appelle
parce
Paul.
Parce qu'il y a un jeu de mots?
Non.
Non, parce qu'il a des homonymes?
Ah ben, ils sont quatre à avoir le même nom. Donc, il faut trouver le bon prénom.
Besson?
Besson? Besson. Ouais, c'est Besson.
C'est Besson. Besson.
Un des quatre Besson?
Ah.
Non. Ah.
Philippe Besson, Patrick.
C'est la présidence des pôles.
Il est journaliste?
Ambassadeur des pôles.
Il est journaliste aussi?
Oh, il a surtout occupé, on va dire, des fonctions culturelles, voilà.
En Éric tant qu'ambassadeur, il a
Poivre
fait
d'Arvor.
Pardon.
Olivier Poivre d'Arvor.
Bonne réponse de Gaël Tchakaloff.
Mais c'est vrai que Patrick, il est pas Paul. Mais oui, vous dites qu'on prononce Léo.
Il y en a un qui est ambassadeur des pôles et l'autre ambassadeur de Popol.
Les pôles d'agneau.
Mais voyez que vous avez trouvé la réponse, Gaël Tchakaloff.
Savais... Non, mais je trouve très souvent des réponses. Mais à force de dire que je ne les trouve pas, les auditeurs le croient.
Pour Audrey Baguette, sans transition, Madame Baguette habite...
Boulangère.
Elle habite...
Elle est bien moulée.
Elle habite Villeneuve-d'Ornon, en Gironde. Quel jeu a été inventé au Canada en 1954 sur un yacht où un couple s'ennuyait et a fini par établir les règles de ce jeu qui ensuite évidemment a été racheté et devenu un succès.
Le Milborne.
Le risque.
Le risque, non. Le Milborne, non.
Le curling.
C'est un jeu où il faut...
C'est Julie encore.
Ouais. La bataille navale.
Sur un yacht, Julie.
La bataille navale.
Le mastermind.
Le mastermind, rire. Non.
C'est un rapport avec les bateaux?
Le bateau, non. Non, d'ailleurs, dans un premier temps, ils avaient appelé ça le yacht game.
Le Cluedo?
Est-ce que c'est
et
avec...
ça peut vous aider ce que je viens de dire.
Est-ce que c'est avec des cartes à jouer?
Non, pas avec des cartes à
c'est
jouer.
C'est un peu qu'on se met la carte sur le front et il faut deviner...
Le time's up.
Ah, le time's up, non.
Il faut faire des mimes?
Alors évidemment, comme ils ont inventé ça sur un yacht, ça s'est appelé yacht game. Game, ça veut dire jeu, hein, au cas où vous l'auriez oublié.
Yacht, ça veut dire yacht.
on apprend des trucs. Hein.
Il y a des pions. Il y a yacht, c'est le yams.
Alors, on se rapproche.
C'est le yams.
Est-ce qu'on joue
le
avec des dés? 421.
Le 421.
Non.
On joue avec des dés?
Le poker. Le poker.
On joue avec des dés. Alors, c'est vrai qu'on peut appeler ça aussi le yams, mais c'est aussi...
Alors
le
eh ben, Mikado, c'est le yams.
Le Mikado.
Non, dans un premier temps, ça s'est pas appelé yams. L'autre nom, c'est le yams.
Ah oui,
Ah oui, c'est un des tours qu'on fait dans le yam, c'est ça?
Le morpion, là.
Ça, c'est quand ça monte et que ça descend, là, tu sais.
Ouf le yo-yo.
Scramble.
Vos souvenirs personnels. Non, mais vous avez trouvé le yam.
Bah oui.
C'est bien, mais le yam, c'est l'autre nom. Ça se joue avec 5 dés.
Ah, le
bogle.
Le bogle, mais non, puisque. Écoutez.
Ah si, le bogle et les mouettes.
Mais non.
C'est sur un yacht.
Le yacht dice.
Non.
Le five game.
Mais non, mais comment elle a trouvé Yams, Christine?
Par le yacht.
Voilà.
Par Yadzi ou par le Yadzi.
Le Yadzi, oui, le bonne le réponse de Christine, bravo. Mais oui.
Par le Y, oui.
Alors on dit Yadze en France, ouais. On dit Yadzi, ça dépend comment on le prononce évidemment, mais voilà. on dit effectivement Yadzi aux États-Unis, Yadze. Moi j'ai toujours dit Yadze, mais peut-être je me trompais à l'époque.
Moi, Yadzi,
mais en tout cas ça s'écrit Y-A-H-T-Z-E-E. Le Yadze, ça se joue avec 5 dés ou Yadzi si vous préférez. Et l'autre nom c'est le Yams aussi, mais dans un premier temps ça s'est appelé Yacht Game, puis c'est devenu Yadze, puis Yams, parce que finalement le moindre effort est toujours celui qui gagne.
Voilà.
Mais c'est dans il n'empêche encore Christine Bravo qui a trouvé la bonne réponse. Pour Nicolas Jousselin qui habite Ans dans le Rhône, pouvez-vous me retrouver le nom du dromadaire très rapide dressé pour les courses?
Le lévrier.
Oui. Non. Non.
Le Méhari.
Oui.
C'est Julie qui a
oui,
dit
oui,
ça.
Oui, monsieur.
Alléluia. Bonne réponse de Julie Leclerc.
Restez assis.
Merci, s'il vous plaît.
RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news.
Alexandre est au téléphone. Bonjour Alexandre.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Bonjour Alexandre.
Vous êtes à Chalin dans l'Ain. Que faites-vous dans la vie, Alexandre ?
Technicien dans le traitement de l'eau.
Dans le traitement de l'eau. Très bien.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous lui faites à l'eau ? Vous la traitez bien ? Vous la traitez
on
mal ?
On la traite bien, on la produit.
Vous la traitez de tous les noms, parfois aussi peut-être, Alexandre. Vous avez 36 ans. C'est où Chalin d'ailleurs ?
C'est à 40 km de Lyon.
Tout près de Lyon.
C'est où Lyon ?
N'écoutez pas Laurent Baffy. Ou plutôt écoutez-le quand il va vous donner une information. Ils vont être 6, mais 6 grosses têtes vont tenter évidemment de vous tromper. Il y aura une seule vraie info, il y aura 5 fake news. Vous connaissez le principe, Alexandre.
Tout à fait, oui, oui.
Un week-end au château de Pizet en jeu. Magnifique château, c'est un 4 étoiles au cœur de la Bourgogne avec les crus Morgon et Beaujolais du domaine. Un spa entièrement au vin. Hein. Vous serez plongé dans le vin rouge. Un excellent gastro. Ah non, mais il y a un gastro en plus.
C'est un week-end pour se bourrer la gueule, c'est sympa.
Ah bah oui, 80 hectares de vignes, de jardins à la française, des tourelles médiévales. Une suite duplex vous attend, Alexandre. Il y a une madame Ruffier.
Tout à fait, oui, Sandra.
Sandra, bien
sûr. Il ne sera plus en état de faire quoi que ce soit, Alexandre.
Alexandre et Sandra, je vous imagine déjà dans la suite duplex. Avec
en train de baiser dans le pinard.
Allez voir sur le site internet du château, château-pizet.com. Bon.
Mais je connais bien ça à côté de chez moi.
Ah ben bah parfait.
Ah bah d'accord. Ah,
vous êtes si ça ne te plaît pas, bah tu raccroches, d'accord.
Bah comme ça, ça vous coûtera pas cher en voyage au moins.
Exactement. Bah attends, je rêve, appelle Europa, trou de cul.
Ne vous laissez pas faire, Alexandre. Soyez plutôt attentif aux différentes informations. Tiens, d'ailleurs, on va tout de suite commencer par Gérard Jugnot.
Ah, oui, allô.
Allô.
JO de Pékin, l'équipe de France de bobsleigh, sponsorisée par le suppositoire anti-Covid de l'Institut Pasteur, a fini 13e de la compétition.
Monsieur Baffy.
Anne Hidalgo a décidé de ne pas annuler l'invitation du footballeur de l'équipe de France, Kurt Zouma, à son prochain meeting, vu qu'il n'y aura pas un chat.
Gaël Tchakaloff.
Valérie Pécresse étant tellement peu à l'aise sur scène, son parti a décidé de prendre Valérie Lemercier pour la remplacer lors de ses prochains meetings. Quitte à dire des conneries sur scène, autant prendre une vraie professionnelle, a justifié Christian Jacob.
Ariel Dombal derrière.
Hier, Valérie Pécresse a rendu visite à Édouard Balladur qui lui a donné des conseils pour gagner une présidentielle. Demain, elle rencontrera Raymond Barre et Jean Le Canuet.
Christine Bravo.
D'après un sondage réalisé tout de suite après son dernier discours, Christiane Taubira a 98% de chances d'être élue à l'Académie française.
On a eu tout le monde. Non, il manque à Mandalire, je l'ai dit.
Bah ça, on ne l'a jamais fait
encore. Il n'est pas là, il a le Covid.
Alors, à Nice, un coiffeur qui s'appelle Éric Zemmour a décidé d'enlever son nom de la devanture de son salon à force qu'elle soit régulièrement vandalisée, cette plaque. L'autre Éric Zemmour a tweeté « Soutien à mon homonyme contre la racaille ».
Alors, qui a dit la vérité à votre avis, Alexandre ?
J'y vais direct ou j'élimine ?
Ah bah, éliminez, éliminez. Ouais, ouais. Vous gagnerez un séjour à Vittel. Ouais.
Alors, je vais éliminer Ariel Dombal.
Mais Alexandre, vous êtes sûr ?
Oui, je crois que Pécresse n'ira pas voir Raymond Barre et Jean Le Canuet, vous avez raison.
Je vais éliminer Monsieur Jugnot.
Alors, Monsieur Jugnot, oui, c'est vrai que les bobsleighs, ça a des formes de suppositoires, mais les Français ne couraient pas sur un suppôt de l'Institut Pasteur.
Je vais éliminer Mademoiselle Tchakaloff.
Alors, Mademoiselle Tchakaloff, oui, non, Valérie Lemercier ne va pas remplacer Valérie Pécresse.
Madame Bravo.
Christiane Taubira, c'est vrai qu'elle aurait des chances pour, enfin, plus de chances, en tout cas, à l'Académie française. Qui vous reste, alors?
Il me reste Julie Leclerc.
Et Laurent Baffy.
Et Laurent Baffy, mais je l'élimine aussi.
Ah, bah, très bien.
Bien joué, Alex.
Et donc, vous croyez au salon de coiffure, Éric Zemmour, et vous avez raison, bien sûr. On le connaissait depuis longtemps, ce salon de coiffure à Nice.
Il y en a aussi un à Monaco.
Il y en a un à Monaco aussi. Ah ben c'est une chaîne alors, carrément. Mmh. Alors, il paraît qu'il va mettre le nom de sa femme, Valérie Pécresse, à la place. Mais le grand remplacement n'a pas eu lieu encore sur l'aventure. Non mais c'est quand même con de bah, c'est pas parce qu'on est homonyme. Les Leclerc se ressemblent pas, n'est-ce pas ?
Il y en a un paquet surtout.
Les centres.
L'épicerie Adolf Hitler a fermé aussi. Hein.
Oui, mais Félix Pétain est resté ouvert. En tout cas, Alexandre, vous partez au château de Pizet. Vous êtes content ?
Vous pourriez y aller à pied.
C'est à combien de kilomètres de chez vous à peu près ?
Une
trentaine de kilomètres.
Une trentaine de kilomètres. Bon, vous souhaite un joli séjour, Alexandre.
Merci beaucoup.
Et encore bravo, vous avez bien suivi l'actualité. Une question pour René Jam, qui habite l'île dans le Nord. Où trouve-t-on des cascabelles?
Ah, des cascabelles.
Oui, des cascabelles.
Des fruits. Ça se mange.
Est-ce que c'est une plante?
Ça ne se mange pas, les cascabelles.
Ça pousse.
Ça ne pousse pas.
C'est pas des animaux.
C'est des bêtes.
Alors, c'est lié à des animaux, mais c'est pas un animal, la cascabelle.
Oui,
non.
Oui, oui.
C'est lié au son.
C'est un parasite.
Ça produit un son.
Alors, c'est vrai que ça produit un son, la cascabelle.
C'est comme une castagnette. Comme une castagnette.
C'est pas un serpent.
C'est comme une castagnette et ça vient du serpent. El cascabel, c'est celui qui fait le bruit de El cascabel.
Castagnette. Alors je vous confirme que ça n'existe pas le mot cascabel en Espagne.
Si, El cascabel, claro que si.
C'est pas la sonnette du serpent à sonnette.
C'est la sonnette du serpent à sonnette. Bonne réponse de Laurent Baffi.
Mais c'est ça le cascabel. Bon.
Et comment on l'appelle le serpent à sonnette, le
cobra?
Non, rattlesnake.
Non. Bah, ah tiens, voilà, question.
Laurent Ruquier, on l'appelle.
Question subsidiaire, comment on appelle le serpent à sonnette pour René Jam? J'ai eu donné.
Le ding-dong.
Non, lui donner une deuxième chance. Et c'est vrai que la cascabelle est l'organe situé à l'extrémité de la queue de certains serpents qu'on appelle serpents à sonnette. C'est le bruit.
Bonne réponse d'Ariel Dombal.
Oui, c'est vrai. Bonne réponse d'Ariel Dombal. D'accord, Ariel. Mais
c'est le naja.
Non.
Mais maintenant, je veux le nom du serpent.
C'est pas le naja.
Non.
C'est lié à la queue.
Ben oui, je viens de vous le dire.
Est-ce qu'il y a deux mots?
Il a des grandes écailles en anneau, parfaitement fixées au bout de la queue, et c'est leur avertissement. Sort sonore et lorsqu'ils se sentent menacés.
Ils sont gentils d'ailleurs, les serpents à sonnette, puisqu'ils préviennent.
Il n'y en a pas 10 000 des serpents,
monsieur. Non, j'ai un trou de mémoire, je connais que ça, j'ai un trou de mémoire.
Ah bah oui.
Vous me dites la première lettre, je vous dis tout de suite.
Sûrement
non,
pas.
Bah non, alors.
Parce que moi je connais les serpents interphones.
Non, mais écoutez, tout le monde le connaît, ce serpent.
Oui, mais on l'a, oui. C'est pas l'anaconda, c'est pas l'anaconda, ça.
Ne parlez pas toujours de vos nuits, vous.
Le piton, non.
Le piton, non. Ça, c'est pas le torchon.
C'est le crotal.
Le crotal, bonne réponse de Christine Bravo.
Christine, bravo.
Heureusement qu'elle est là.
Elle couvre tout aujourd'hui.
Bravo.
Pour Avi Bitoun, qui habite Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, qu'est-ce que des Lydies?
Pardon.
Qu'est-ce que des Lydies?
Des plus loin, Lydies, D-E-S, plus loin.
Alors, des plus loin, Lydies.
C'est des princesses qui meurent dans des tunnels, des Lydies?
Lydie avec un Y.
L-I-D-I.
Est-ce que ce sont des fruits?
Des fruits, non.
C'est un acronyme?
Non.
Ça se mange?
Ça ne se mange pas, les Lydies.
Ça bouge?
Non.
C'est des animaux?
Ça gigote?
C'est en France?
Alors, il y a. En France, il y a des Lydies.
Ce ne sont pas des êtres vivants.
En France, il y a des Lidl.
Il y a des Lydies un peu partout dans le monde.
Ça saute?
Il y a des endroits où certains Lydies sont plus célèbres que d'autres.
C'est des animaux?
Pardon.
C'est des animaux?
Des animaux, non.
C'est un groupement de personnes?
Non plus.
C'est dans le ciel.
La question la plus facile que j'ai jamais.
Est-ce qu'il y a de la vie dans ces êtres-là? Il y a de la vie.
C'est pas des êtres, je vous ai dit.
C'est pas des choses.
C'est fabriqué par l'homme?
Non, non plus.
C'est naturel?
C'est naturel, les Lydies.
C'est des nuages?
Des nuages.
Des nuages, non.
Ça se voit,
des gouttes de pluie.
Si vous réfléchissiez un peu.
Si vous réfléchissez au pieu.
C'est un lapsus révélateur. Si vous réfléchissiez un peu.
C'est en Afrique du Nord qui les dit.
Il n'y a pas plus simple comme
question. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Lydies?
Pardon?
Est-ce qu'il y a des Lydies à Paris?
À Paris, non.
Est-ce qu'au Havre, il y a des Lydies?
Alors, des, non, mais au moins.
Il y a un Lydie.
Non, il n'y a pas un Lydie, non.
Il y a plusieurs.
Une Lydie. Une Lydie.
Est-ce que c'est un phénomène?
Vous manque.
C'est un phénomène atmosphérique.
Un phénomène atmosphérique. Oui.
Non, atmosphérique, non.
Naturel?
Naturel, bah, c'est naturel, mais c'est pas un phénomène. Enfin, c'est un phénomène. C'est pas un phénomène éphémère, en tout cas.
Alors, c'est la marée. Est-ce
la marée?
Ah, on se rapproche.
Est-ce qu'on a envie d'aller voir dans le monde entier ce truc?
Ah, bah, c'est pas ce truc. Il y en a partout.
C'est un volcan?
Non.
Partout où il y a la mer? Partout où il y a des plages?
Pas partout où il y a la mer, mais effectivement, il y a la mer.
Il faut la mer.
Ah, alors, c'est une entrée maritime? J'ai trouvé.
Une entrée maritime?
Lorsque la marée se retire, ça laisse des traces sur le sable, comme des veines.
C'est quand Juppé se retire que ça laisse des traces.
Oh non.
Ce sont les veines sur le sable.
Non. Mais on commence à se rapprocher un peu.
Sans la mer, il n'y a pas de Lydie.
Sans la mer, on peut pas connaître les lidies.
C'est un rapport avec les vagues.
C'est du limon.
Non.
Du limon.
C'est l'écume sur l'eau.
Je suis tellement triste.
C'est la lune.
Je suis tellement, comment dire, mais.
C'est la marée de la lune.
Non, mais je suis tellement, comment dire, mes épaules pourraient m'en tomber tellement je suis.
Mais vous êtes triste de quoi? C'est du surf.
C'est des
arêtes de poissons.
C'est des couleurs.
Vous avez dit sans la mer, il n'y a pas de lidie.
C'est lié à la lune. C'est lié à la lune, Laurent.
C'est dans le ciel.
C'est pas lié à la lune. Non.
C'est pas dans le ciel ?
C'est pas dans le ciel, non.
Est-ce que vous en avez vu des lidies ?
Ah ben j'en ai vu, oui, des lidies, oui, j'en ai vu. Oui.
Et vous aimez ça, les lidies ?
Ah ben, il y en a surtout un que j'aime plus que d'autres, oui.
Est-ce que c'est une gouttelette de l'écume ?
Qu'il aime plus que d'autres.
C'est un phare.
Ah, vous aimez le libidineux.
Lui, il a une gouttelette qu'il préfère à l'autre.
Est-ce que nous avons déjà tous vu des lidies?
J'en suis sûr.
C'est un phare.
Oui, un phare, non.
C'est un port.
Un port. Un port, non, mais on se rapproche. Un estuaire, non, mais on se rapproche.
Une
anse. Une presqu'île. Non, non.
C'est un pont suspendu.
Un pont suspendu non plus.
Un goulot d'étranglement.
Une falaise.
Non.
Un estuaire, on l'a dit.
Un estuaire, vous me l'avez dit.
Un delta.
Un delta, non, pas tout à fait non plus.
Ah, c'est quand la mer entre dans la terre.
Non, mais il y en a une qui préfère.
Et que ça fait une petite rivière, mais dans l'autre sens.
Expliquez-moi, où est-ce qu'il y a ça, alors, Ariel ?
Eh bien, par exemple, en Hollande.
Oui.
C'est l'eau qui rentre dans un fleuve côtier.
300 euros pour Monsieur Bitoun. Est-ce que quelqu'un, en réfléchissant, a compris la question ? Regardez, il y a un monsieur qui lève la main, il y en a une autre
là-bas. Attention, j'y retourne, attention. Alors, bonjour, vous vous appelez comment ?
Thierry de Paris.
Thierry de Paris. Mais donc vous vivez à Paris, Thierry de Paris ?
Oh là là,
oui.
Alors, quelle est la réponse alors ?
C'est une lagune, c'est de Venise.
Par exemple, donc, Delidi, c'est quoi ?
C'est le pluriel de Lido.
Exactement. Le pluriel de Lido.
Ah bah oui,
Delidi.
Bravo.
Bonne réponse.
Oh là là. Eh ouais.
Alors là, franchement.
Mais moi, j'ai dit, j'étais tout près avec la Hollande.
Avec la Hollande, mais non, lui, ce qu'il préfère, c'est le Lido de Venise.
Eh oui, le Lido de Venise, mais il n'y a pas qu'à Venise.
Il y a un Lido à Dunkerque.
Mais c'est...
Non, un lido, c'est un cordon littoral qui ferme une lagune.
Oui.
Alors, généralement, il y a plusieurs établissements balnéaires, sont des plages de sable équipées d'établissements balnéaires, d'hôtels, si vous préférez. Effectivement, le premier lido qu'on connaisse vient d'Italie. Vous savez très bien qu'en italien, on dit...
masculin,
voilà,
et au pluriel.
Voilà, exactement. Un bambino des bambini.
Voilà. Spaghetto, ouais, spaghetti.
Et on pense pas à
scénario des scénarios.
Mais enfin, quand même, le mot était tellement court. Lydie, il fallait quand même réfléchir.
Mais
voyez.
Oui, mais un lac, c'est pas un lac.
Pardon ?
Pas un lac.
Mais qui a dit que c'était
personne
un lac ?
Eh ben, moi, je dis que c'était pas un lac. Justement.
J'en ai connu des grosses têtes de mauvaise foi, mais comme vous, rarement. Hein. Eh ben, désormais, vous saurez qu'au pluriel, un lido, c'est des lidies. Mm. Et des lidies, ben, il y en a effectivement.
C'est salé.
Un peu partout dans le monde, des lidies. J'en peux plus.
Oh, mais c'est
vite la valise, vite la vitesse mystère, vite.
La valise.
La valise RTL qu'on va confier à Ariel Dombal, qui va sortir de ses lagunes pour, ou de ses lidies pour appeler un auditeur. Elle est un peu lourde, hein, cette valise. On aimerait bien quand même maintenant s'en débarrasser. Il y a 8 choses dans la valise, en plus des 1018 euros de départ. Mademoiselle Leclerc, voulez-vous nous donner un numéro ?
Le 20.
Le 20. Ouf, on l'a échappé belle. C'était de 1 à 20. Quand même, elle était dedans.
Quand même, je sais que c'est de 1 à 20, Laurent.
Pour Sylvie Chappé, qui habite Orvault, en Loire-Atlantique. Attention, ça a sonné chez Sylvie Chappé. Elle habite rue de la Patouillerie. Mmh. À Orvault, en Loire-Atlantique. Ça sonne chez Sylvie Chappé. Mmh. Deuxième sonnerie. Peut-être même 3, il m'en a échappé
12,
une.
Attends.
Non, la machine.
Il n'y a personne.
Oui, bonjour, vous êtes bien sur le portable de Sylvie Chappé. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais c'est promis. Si vous me laissez un message, je vous rappelle. Ah, merci, au revoir.
Désolé, madame, on voulait joindre l'échappé. Évidemment, on ne l'a pas rattrapé. Une autre valise, mais on vous enverra une montre RTL.
Oui.
Mademoiselle Leclerc, qu'est-ce qu'il y a ?
Je ne vois pas pourquoi, elle n'a pas répondu.
Ha 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 ha! Parce qu'on est aimables, nous, vous voyez.
Oh la tête.
Ah non, mais l'autre, c'est une porte de prison. Hein. Leclerc.
Un numéro ?
Oui.
Allez, ok.
Le 1.
Le 1 pour Delphine Rebillou Cocampo. Oh, comment elle va pouvoir noter ? L'autre, elle va jamais être capable de noter tout ça.
Oh, les blondes,
ah,
alors.
Si, si, si.
Quatre blondes, j'en peux plus. Delphine Rebillou Cocampo habite Pessac.
Oh là là, oui, c'est compliqué.
Elle, elle a pas de montre, hein, si elle décroche pas.
Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Delphine.
Eh non, oh là là, pas de montre.
À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse.
Ben vous aurez pas de montre.
Voilà, madame Rebillou Cocampo, c'est Christine Bravo qui veut pas vous donner de montre. On va essayer quelqu'un d'autre. Ne lui dites rien. Ne lui dites rien.
Non.
Leclerc.
Oh la vache.
Oh, mais arrête.
C'est terrible, hein.
Mais Leclerc.
On se croirait sur P1.
Le 10.
Le 10.
Quelle heure on va manger.
Isabelle Renaud habite la Salle Saint-Cloud dans les Yvelines. Ça a sonné chez Isabelle Renaud à la Salle Saint-Cloud. J'entends déjà la première sonnerie. J'entends
le 12 première... Moi, je dis le numéro d'après. Hein. Le 12.
Ça sonne chez Mme Renaud.
17.
C'est fini le thé.
Ah, voilà.
Voilà, ça y est, elle est drôle maintenant.
Voilà.
On sent que c'est fini le télétravail. Hein.
Allô ?
Messagerie Orange, oh, bonjour.
Bon, je vais changer, hein, Julie Leclerc.
Bah, le 12.
Non, je veux plus vos numéros à vous.
Ah oh, bah d'accord.
Monsieur Junior, mon le bon 7. Gérard. Il sait faire ça, mon bon Gérard.
Le 7.
Le 7. Jean-Luc Lamarre, il habite...
À Clamart.
Non, Versailles. C'est Jean-Luc et plus loin, Lamarre. Monsieur Lamarre est à Versailles dans les Yvelines et ça a sonné chez Monsieur Lamarre. On n'en peut plus, on peut plus. Mon chien, mon chien.
Pourquoi vous appelez pas votre chien ?
Oui. C'est si malin, il peut répondre. Bon, bon.
Il serait capable, il serait capable.
Ah, je croyais que Gérard Jugnot, c'était allô avec moi.
Ah non.
Ah non. Ça sonne dans le vide aussi, hein.
Eh ben non.
Non. C'est mal.
C'est fou, là, cette bombe, le mal que
bonjour,
ça fait.
Bonjour, vous êtes bien sur le portable.
Eh ben voilà, Gérard Jugnot.
Laissez-moi
hein
un petit message.
Un
et je vous rappelle dès que possible.
Oh,
à bientôt.
Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse.
Non.
Bonjour Jean-Luc, c'est Laurent Baffy. Je sais que tu cherches à avoir un rapport sexuel. Je peux te proposer Julie, Christine Bravo, Ariel Dombal ou Ariel Tchekalov. Rappelle-nous pour nous
c'est
dire
Gaël,
ton choix.
Gaël. On n'a pas deux barils d'Ariel.
Laquelle tu veux baiser, rappelle vite.
Bon, alors écoutez, je vais choisir moi-même la personne.
Oh Laurent, j'ai le 11, moi, qui est bien.
Ah, le 11. Bon, alors d'accord. Valérie Wendling dans le Bas-Rhin à Roppenheim.
Je ne sais pas.
Vous savez pourquoi le 11 ?
Non.
Parce que le 11, je suis à Bruxelles, au Cirque Royal.
Ah, bah, le Cirque Royal !
Et le 12 à Liège.
Faut remplir.
Faut remplir.
C'est
oui.
D'énormes salles, Laurent Baffy, oui. En Belgique, le 11.
Merci, Laurent.
Ça sonne chez Valérie Wendling à Roppenheim. Allô ? Non, j'ai cru.
Dingue aujourd'hui.
Mais c'est marrant.
Oui, allô ?
Ah. Allô, allô, allô. Est-ce que je suis en présence de Valérie Wendling ?
Oh mon Dieu, Ariel, mais bien sûr.
Ah, bravo.
Ariel.
Alors Valérie, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ?
Ben j'ai bien peur que ce soit une valise.
Oui.
J'ai pas...
Vous êtes à Roppenheim, Valérie.
Oui, c'est ça.
Ça capte mal, dites donc, dans ouais, le Bas-Rhin, ouais. J'ai l'impression.
C'est un peu la campagne.
Ah, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Valérie ?
Eh ben, pour l'instant, je m'occupe de mon mari, je cherche un peu de travail, je fais du bricolage.
Oh, ben ça aurait été vraiment bénéfique, j'imagine, la valise RTL.
Non, ah ben, bien sûr.
Mais pourquoi vous n'avez pas noté ?
Ben écoutez, ça fait un petit moment que je me suis inscrite. Et là, ça fait 3-4 jours que j'ai pas écouté les podcasts, donc la liste est pas à jour.
Ah, papa.
Quel dommage, Valérie.
Ah, malheureuse. Une montre RTL, Valérie.
Deux.
Ah, d'accord, deux.
Ça va, on n'a pas arrêté d'enfiler aujourd'hui. Attends.
Et Valérie, je vous invite
Christine,
à Bruxelles.
S'il vous plaît.
Ah oui, deux. Puis en plus, elle fait du bricolage, c'est mignon.
Ah oui,
C'est adorable, le bricolage.
Ma mère m'avait prévenu, tu finiras avec des folles. On vous envoie les deux montres RTL.
Mais oui.
Valérie.
Je peux vous demander qui est avec vous aujourd'hui ?
Oh, bah, bien sûr. Il y avait Gaël Tchekalov, Julie Leclerc, Christine Bravo, Ariel Dombal, Laurent Baffy et Gérard Jugnot.
Eh ben, tous mes préférés.
Oh, oh moi aussi, moi aussi. Tout pareil que vous, Valérie. Allez, j'ajoute encore dans la valise. Ce sera pas pour vous, ce sera pour le prochain auditeur qu'on appellera ou l'auditrice. Une lampe frontale.
Ah oui, de gynéco, je l'ai, non. Elle est bien.
Une lampe Ligou. C'est une lampe frontale multifonction évolutive.
Ça, c'est génial, j'adore ça.
Vous connaissez ?
J'en ai deux, moi, des lampes frontales.
Ah oui, c'est une innovation qui a reçu le prix de la meilleure invention sur M6 dans l'émission Mon invention vaut de l'or. C'est une lampe LED multifonction, donc de la marque Ligou.
Elle est moche ?
Pourquoi elle est LED ?
Elle est 100% fabriquée en France. C'est une petite lampe qui s'adapte à une dizaine d'accessoires, quelle que soit votre activité. Frontale. Lampe torche, pour le camping, le jogging, le bricolage, la pêche, ou encore pour promener votre chien.
Oh, mon
en
bébé.
Toute sécurité, sortez éclairé avec Ligou. Plus de renseignements sur ligou.com, avec 2G et 2O. Ligou.
Être... Non, mais c'est très mignon. Hein. Moi, j'ai vu plein de chiens qui portent la petite.
Oui, oui, oui. Enfin, quand ils
on dit
sentir...
tous les
ligous
sont dans la nature.
Non, mais c'est indispensable, la frontale, quand t'es en bateau et que t'arrives à quai comme ça.
Mais
en
bien
pleine
sûr
nuit.
Et quand tu joues au yacht, c'est sur le yacht.
Non, mais
pour
le
vous,
yacht.
En tout cas, Valérie, ce sera de montre RTL. On vous embrasse.
Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL.
Et oui, on va chercher. Bienvenue, invité mystère. Vous êtes confortablement installé, j'espère ?
Oui.
Oui. La voix est bien déformée, en tout cas, je le confirme. Je vous livre aux questions de mes camarades grosses têtes.
Bonjour, quel est votre prénom ?
Est-ce que vous êtes un homme ou un homme ?
Oui.
Ah, oui. Oui.
Est-ce que vous êtes désirable ?
Oui.
Des enfants ?
Oui.
Combien ?
Deux.
Vous les avez achetés ?
Oui.
Invité mystère, est-ce qu'on peut vous voir sur des écrans ?
Oui.
Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter au présidentiel ?
Oui.
Qui ?
On connaît.
Ah, c'est quelqu'un qui donne plutôt ses opinions, qui, n'est-ce pas, invité mystère ?
Oui.
Pour qui ? Réponds, fumier !
Vous n'êtes pas obligé de le dire, invité mystère. Moi, je le sais, mais vous n'êtes pas obligé de le dire.
Est-ce que
vous êtes... Est-ce que vous êtes déjà passé dans l'émission Quotidien ?
Non.
Est-ce qu'on vous a vu dans Faites entrer l'accusé ?
Alors vous n'êtes pas un interlocuteur.
Non.
Est-ce que vous êtes déjà venu aux grosses têtes ?
Non.
Est-ce que votre travail se fait tout seul ou est-ce que vous devez collaborer avec d'autres ?
Seul.
Est-ce que vous êtes drôle ?
Non.
D'habitude.
Est-ce que vous faites tout seul dans votre travail ?
Vous pouvez faire preuve d'humour, invité mystère, dans votre travail tout de même.
Merci.
Eh oui.
Invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous ?
Oui.
Demande-lui s'il est écrivain.
Donc vous êtes écrivain, là. Non,
et le papier ?
Voici un premier indice musical. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs et on se disait quelquefois. Le groupe Indochine.
Est-ce que vous avez habité en Indochine ?
Non.
Je crois même que vous n'êtes jamais allé là-bas, n'est-ce pas, invité mystère ?
Oui.
Mais vous nous raconterez ça une fois que vous serez ici. Mais c'est bien le groupe Indochine qui était notre premier indice.
Oui. Vous avez un rapport avec l'Indochine, donc.
Est-ce qu'il vous arrive d'écrire dans des journaux ?
Non.
Ah, il n'est pas journaliste.
Donc, vous n'écrivez que de la fiction ou vous écrivez de la non-fiction aussi ?
Fiction.
Avez-vous reçu un prix littéraire ?
Oui.
Voici un deuxième indice. Ariel Dombal propose Yann Moix. Est-ce que vous êtes Yann Moix ?
Non.
Non, Laurent Baffy, il faudrait que vous m'expliquiez qui est La Carrière.
Je pense que j'ai trouvé, mais je n'arrive pas à retrouver le nom. Et je ne veux pas vous donner des indices qui feraient trouver les autres.
Ah oui, donc en tout cas, non, ce n'est pas... Pensez à Carrière, peut-être.
Je mélange Jean-Claude Carrière,
Jean-Claude Carrière.
Emmanuel Carrère.
Non, d'abord, il est mort, Jean-Claude Carrière, le pauvre. Et ce n'est pas Carrère non plus. D'autres questions.
Est-ce que votre nom est synonyme, pourrait être le synonyme d'un, votre nom de famille, d'un métier ?
Oui.
Ah, je sens que Christine Bravo est sur une excellente piste. Voici un troisième indice. Ça vient de là. Chimène Badi qui chante là-haut. Je vous confirme que Christine Bravo vous a identifié. Et grâce à cet indice, Gérard Jugnot aussi vous a reconnu.
Ah oui, je suis en train de lire son bouquin.
Ah, et en plus, il est en train de lire votre livre, Gérard Jugnot. Laurent Baffy aussi vous a identifié. Bravo, Laurent Baffy. Alors, Carrielle Dombasle propose Patrick Besson. Êtes-vous Patrick Besson ?
Non.
Non.
Est-ce que vous êtes philosophe également ?
Pardon ?
Êtes-vous philosophe également ?
Non.
Vous avez du mal à dire oui, franchement. Hein.
Non.
Voici encore un indice pour Gaël Tchakaloff, Julie Leclerc et donc Christine Bravo, elle a trouvé Ariel Dombal.
Un terroriste belge se prend en otage et menace de se tuer s'il n'est pas libéré. La police intervient, 4 morts.
Ah, c'est Albert Dupontel qui nous sert d'indice supplémentaire. C'est un bon indice, Albert Dupontel, n'est-ce pas, invité mystère ?
Parfaitement.
Très bon indice, même. Alors,
c'est-à-dire qu'il a adapté un de vos romans, c'est ça ?
Oui.
Ah, elle est sur une piste, Gaëlle Tchakaloff.
Non, je ne l'ai pas du tout.
Invité mystère.
Je vous rappelle que c'est la littéraire de l'amende.
Oui, bon, écoutez, ça va. Hein.
Invité mystère, est-ce que vous aimez les actrices ?
Oui.
Ah, pourquoi vous demandez ça, Ariel Dombal ?
Parce que j'ai deviné.
Bon, on va vérifier. Alors, Julie me marque l'auteur de... Bah oui, mais je vous demande pas le titre des romans qu'il a écrit. Je vous demande son nom, vous voyez.
Je retrouve plus son nom.
Ariel Dombal propose Hervé Le Tellier. Êtes-vous Hervé Le Tellier ?
Non, mais je regrette.
Non, mais c'est vrai que ça vous fait un point commun. D'ailleurs, la preuve, écoutons un dernier indice.
Le prix Goncourt 2013 a été décerné au 12e tour de scrutin. Au roman de... Au revoir, là-haut.
Et voilà. Alors là, ça devrait peut-être aider mes camarades. Oui. Non, rien chez Julie, rien chez Tchakaloff, la honte, Tchakaloff.
Pas du tout, je suis bloqué, j'ai un blocage.
Et rien chez Ariel Dombal.
Oui, je l'ai sur le bout de la langue.
Oui, ah bah, bien sûr.
Mais on est bloqué, on a le droit.
Je vais me tourner vers Gérard Jugnot, Christine Bravo et Laurent Baffy, notre invité mystère. C'est
Pierre Lemaître.
Pierre Lemaître, évidemment. Et qui publie Le Grand Monde, son dernier roman. Pierre Lemaître était bien notre invité mystère. Il publie son nouveau roman, j'ai presque envie de dire son nouveau feuilleton, sa nouvelle saga chez Calman Levy. Cette fois, s'appelle Le Grand Monde. C'est le premier tome. On peut peut-être même considérer que c'est le quatrième si on compte les trois précédents.
Oui, oui, on peut compter dans ce sens-là également. Oui.
On peut compter dans ce sens-là. Moi, je ne l'ai pas encore entièrement lu.
Comment ça ?
Je suis en cours, tout comme Gérard Jugnot.
Du coup, je suis arrivé pas frais parce que à 2h du matin, j'ai repris le bouquin.
C'est vrai.
C'est génial.
Vous aimez ça ?
Ah, j'adore.
Ça cause de quoi ?
Alors justement, ça cause de quoi ? Mais je vous réponds. Christine Bravo.
Christine Bravo, de toute façon, elle n'aime que Russell Banks.
Ah, bravo, vous connaissez mes goûts littéraires.
Parfaitement, par cœur.
Oh, alors, j'adore Russell Banks, mais j'aime beaucoup ce que vous écrivez.
Bien, je l'ai mérité.
Ben c'est une nouvelle histoire à travers les époques. Là, une histoire qui nous mène à la fois en Indochine, d'où le premier indice, au Liban et à Paris. Comment s'appelle la famille en question ?
La famille Pelletier.
La famille Pelletier, avec un père de famille qui a vu ses enfants partir plutôt en France, d'ailleurs, sauf un qui va aller en Indochine.
Oui, qui va partir en Indochine. On est en 1948 et il va se retrouver, au fond, baigné dans cette ville de Saïgon, qui est une ville-monde et qui est le centre de cette guerre d'Indochine qui indiffère beaucoup la population de métropole, mais qui passionne beaucoup ceux qui profitent de cette guerre.
Alors, il y a encore une escroquerie dans votre roman.
Oui, je voulais vous faire plaisir.
Comme dans Au revoir là-haut, parce que vous aimez ça, les escroqueries.
Bah oui, c'est assez souriant, c'est amoral, c'est élégant, c'est bien. Ouais.
Un criminel aussi.
Oui, toujours un peu, oui, toujours un peu.
Pourquoi vous aimez les crimes de sang ?
Bah, c'est pas que j'aime les crimes de sang, mais j'ai commencé ma carrière dans le roman policier, dans le roman noir, et j'ai peut-être gardé un peu un tropisme hein, pour les crimes, les affaires criminelles.
Vous en êtes où, Gérard Jugnot, alors, dans cette saga ?
Il va dire la fin.
Trois quarts, mais je...
Les trois quarts je bravo, en tout cas, Laurent Baffy, de vous avoir reconnu assez rapidement, bah, Gérard Jugnot, mais la première, il faut reconnaître, c'est Christine Bravo. Ouais, ouais. Vous aviez lu Au revoir là-haut ?
Ah bah ouais, assez magnifique. Et puis quelle idée géniale. C'est... Ce qui est incroyable, c'est que c'est tragique et drôle.
Sauf que
c'est très même, drôle.
Pierre Lemaître, depuis, c'est tout juste qu'il ne fait pas des cauchemars géants. Alors dans chaque interview, vous racontez ça, il imagine quand il dort mal la nuit, quand il cauchemarde, il imagine que Bernard Pivot vient reprendre son prix.
Oui, oui, oui. Mais c'est un rêve que j'ai fait quasiment le lendemain du Goncourt. Je voyais la tête de Bernard Pivot qui me disait « Rendez-le !» C'était terrible, avec un index comme ça pointé.
Vous vous y attendiez ?
Non, 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 bah, non, non, pas du tout.
Mais vous avez le complexe de l'imposteur, c'est ça ? Pourquoi est-ce que vous faites
oui, c'est ça.
Regardez,
oui,
elle, ça la dérange
oui,
pas.
C'est un...
oh, il est méchant.
Et Laurent, oui. Vous savez comment je l'ai retrouvé ?
Dites-moi.
J'ai dîné avec mon éditeur hier, il m'a dit vous seriez là ce matin.
Ah. C'est dégueulasse. Ah.
C'est pas juste ça.
Il faut rendre la montre.
Mais c'est pas gentil pour lui, tu vois. Il aime bien savoir qu'on l'a deviné pour son talent.
Mais il a du talent.
Mais moi ça aussi, non. C'est mon éditeur qui m'a dit qu'il était là ce matin.
Ça, heureusement, c'est pas crédible, elle écrit plus depuis 20 ans.
Un mot. Moi, c'est ma table de nuit.
On ne peut bien. Pas écrire et lire les autres. Et maintenant, je préfère lire les autres.
Oh, il vaut mieux.
Alors, quand même, je reviens sur l'Indochine, parce que c'est vrai que... D'ailleurs, c'est assez amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais on va dire que c'est plutôt rare dans des romans qui racontent cette époque-là, le fameux fils en question qui part pour l'Indochine, c'est pour retrouver un homme.
Oui, c'est pour retrouver un légionnaire. Enfin, je me suis amusé. C'est l'époque hein, de la chanson de Piaf, mon légionnaire. J'ai trouvé amusant de partir de ce thème pour cet amour contrarié qui va se passer à Saigon. Enfin, pour autant, le livre se passe en partie en Indochine, mais en très grande partie aussi à Paris. C'est voilà. Pas un livre sur la guerre d'Indochine.
À la sortie des théâtres parisiens, par exemple.
Par exemple.
J'ai bien en mémoire le fait, parce que je me souviens vous avoir reçu à l'époque, que vous êtes grand fan de théâtre et que vous avez même été bercé et nourri par au théâtre ce soir.
Ah oui, décor de Roger Hart. Ça, c'est resté gravé quelque part.
Et je crois que vous avez écrit une pièce. Oui, oui. Cela m'a parlé d'une pièce que vous avez écrite.
Oui, oui, oui. J'ai écrit une pièce qui est adaptée d'un de mes romans qui s'appelle Rosie and John et qui raconte l'histoire d'un garçon qui pose des bombes dans Paris. Voilà. On avait fait une pièce de théâtre.
Si je parlais de théâtre, c'est parce qu'effectivement, chapitre 26, vous écrivez « Un taxi déposa Hélène et son père devant le grand café Capucine qui se remplissait des spectateurs des théâtres dont les représentations venaient de s'achever. C'était bruyant, animé, c'était gai, c'était beau. » Là, effectivement, vous avez raison de le rappeler, on est à Paris et on est essentiellement à Paris. Mais curieusement, en revanche, quand vous écrivez sur Saigon ou sur Beyrouth, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas pour écrire.
Ben, j'aurais bien aimé y aller, mais le Covid en a décidé autrement. Et comme je suis assez casanier, j'ai pas trop regretté le déplacement. En fait, vous savez, Jules Verne, il nous a emmenés avec Michel Strogoff dans les plaines de l'Oural, il y avait jamais foutu les pieds.
C'est vrai.
Donc en fait, je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas un tout petit peu.
J'adore les pipoteurs, moi. C'est ce que je faisais quand j'étais journaliste à Libé. Je faisais croire que je partais, mais j'écrivais de chez moi. L'affaire moi, Grégory, tu parles, j'ai jamais foutu un pied dans la Vologne.
Mais justement, le journalisme et la presse quotidienne, c'est aussi un aspect du livre.
Oui, c'est personnage collectif. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette période-là, va naître le grand journal de référence des Trente Glorieuses.
François.
Oui, absolument, que Lazarev va créer. Et puis, c'est un journal qui va démarrer, comme toute la vie française, de manière difficile. On est dans l'immédiate après-guerre. La vie est beaucoup plus difficile que ce qu'on imagine aujourd'hui quand on pense aux Trente Glorieuses. Et ce journal va avoir beaucoup de mal à démarrer. Et François, qui veut être journaliste, n'arrive pas à y rentrer, on le jette par la fenêtre, mais il rentre quand même par le sous-sol.
Vous irez jusqu'où, puisque ça part en 1948, vous allez aller
alors,
jusqu'où
48, 52, 59, 65.
Jusqu'en 1965.
Ouais. Ça se lit comme une série, d'ailleurs ce serait génial qu'il y en ait une.
C'est un feuilleton en fait.
Il faudrait qu'il y ait une série aussi.
Mais oui, parce que c'est un vrai romancier.
Mais vous savez, Laurent, la série, c'est nous les romanciers qui les avons inventées.
Bien sûr.
Parce que les séries, ça n'est jamais que l'application du feuilleton qui est né au 19e siècle. Et c'est nous les romanciers qui avons
bien
inventé
sûr,
ça.
Monte Cristo,
on est ravis.
Les Trois Mousquetaires.
Voilà, on est ravis que notre recette fasse recette.
Ce sont des vrais romans populaires et vous aussi, vous êtes un des derniers peut-être à écrire encore des romans sans parler de vous au fond. Hein. C'est ça quand même, même s'il y a évidemment, j'imagine, des choses dont vous vous servez parfois. Je crois l'appartement de vos parents,
oui,
c'est ça?
Oui, oui, je suis surpris que vous le sachiez, ça.
Ah bah, oui.
L'appartement que va habiter Geneviève et Jean, c'est l'appartement dans lequel je suis né, à la porte de la Villette, à Aubervilliers, juste à la porte de la Villette.
C'était tout petit.
Chez Calman Lévy, Le Grand Monde, c'est le nouveau roman de Pierre Lemaître. Merci d'être venu jusqu'aux Grosses Têtes.
Merci
un prix Goncourt qui continue à avoir beaucoup de succès.
Merci à vous.